Selon les légendes urbaines que l'on peut trouver sur Internet, ce village a été déserté suite au terrible incendie qui a ravagé l'ancien hôpital psychiatrique. En effet, tous les résidents de la clinique se seraient enfuis dans la nature et n'auraient jamais été retrouvés. Comme vous le savez déjà, j'avais découvert que cet hôpital psychiatrique était très particulier. Tous les patients étaient victimes d'un culte pour un démon qui se nomme Yaya. Les membres de la direction de l'hôpital leur faisaient un véritable lavage de cerveau une fois qu'ils avaient intégré cette clinique si particulière. Personne n'en ressortait jamais. C'est d'ailleurs à ce moment-là que se serait reformée la tristement célèbre secte du diable. Dans ce nouvel épisode totalement inédit, je vais vous raconter mon exploration très troublante dans ce village abandonné. Selon les informations que l'on trouve sur Internet, c'est suite à un incendie dont l'origine est toujours restée inconnue que tous les résidents se seraient enfuis de l'hôpital et n'auraient jamais été retrouvés. Aucun corps n'a été découvert à l'intérieur. Cela veut donc dire qu'ils se sont échappés dans la nature. Une enquête de police a été ouverte, dans le secret le plus total, car comme vous l'avez compris, le sujet est très sensible. Selon une enquête interne, il a été démontré que dans cette clinique, il y avait des pratiques occultes illégales et très inquiétantes. À tel point que lorsque des condamnations ont été prononcées et qu'un procès allait se tenir pour faire fermer cette clinique de l'enfer, l'incendie s'est propagé quelques jours plus tard, comme par hasard. Et c'est à partir de ce jour que nous n'avons plus jamais eu aucune trace de toutes les personnes qui étaient à l'intérieur de cette clinique. Mais que sont-ils devenus? Où sont-ils partis? Où se cachent-ils? Sont-ils véritablement à l'origine de la secte du diable? L'enquête policière a complètement été rendue secrète, comme d'ailleurs l'existence de cette fameuse clinique. Il est très difficile de trouver des informations. Il faut aller sur le dark web pour pouvoir trouver des archives. Tout a été occulté. L'enquête policière, l'existence de la clinique, le culte satanique qui s'est déroulé. Parmi les informations que j'ai découvertes sur le dark web, il se dit que suite à l'incendie et à l'évasion des résidents de la clinique, le village voisin a complètement été évacué en une nuit et dans le plus grand secret. C'est une mesure de précaution qui a été prise urgemment par les forces de l'ordre pour protéger la population de ce petit village de quelques centaines d'habitants. Tout un village évacué en une nuit. Vous imaginez? Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Quel était le risque? Il y a quelques mois, je suis allé en exploration dans ce village fantôme. Comme vous pouvez l'imaginer, je n'étais pas forcément rassuré, car j'avais entre autres lu qu'il pouvait y avoir des anciens résidents de la clinique qui s'y cachent encore et qui y vivent dans le plus grand secret. J'ai donc pris toutes les précautions nécessaires. Je n'y suis pas allé seul. Je me suis entouré de deux amis, sac à dos, lampe torche, nourriture. Nous étions prêts à y passer plusieurs nuits. L'emplacement de ce village abandonné a été très compliqué à trouver, car il n'existe officiellement sur aucune carte et il n'est répertorié nulle part sur Internet. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Il a fallu explorer le dark web en profondeur et pendant de longues semaines pour pouvoir trouver des informations quant à sa localisation exacte. Nous y sommes allés en voiture en empruntant un petit chemin de campagne. Nous avons traversé une longue forêt en fin de journée, alors que la nuit commençait doucement à tomber. Je ne vais pas vous révéler l'itinéraire ou le moyen de vous y rendre tout simplement pour des questions de sécurité, car comme vous allez le voir, nous avons pris de très gros risques à aller là-bas. Après plus d'une heure de route à travers des chemins très étroits, nous sommes arrivés face à un portail de 3 mètres de haut avec écrit « Zone militaire, défense d'entrée ». Nous avons alors décidé de garer la voiture ici et de continuer le chemin à pied. Nous savions que ça allait être sportif. Du barbelé était posé en haut du portail. Il semblait impossible de le traverser, mais nous avions prévu le coup. Une couverture épaisse et le tour est joué. Nous montons sur le capot de la voiture et réussissons tous les trois à passer la clôture. Enfin, de l'autre côté, nous devons encore marcher quelques centaines de mètres avant de découvrir la première habitation. Enfin, ce qu'il en reste. Car oui, cela fait plusieurs dizaines d'années que ce village est abandonné, et ça se voit. La majorité des maisons sont en ruine. Parfois sans mur. Il y a des tags un peu partout. Il y a même une église. Enfin, ce qu'il en reste. C'est vraiment un très petit village. Il y a quelques centaines de maisons organisées en cercle autour d'une place centrale avec cette fameuse église. D'après les informations que je me suis fournies, il y avait seulement quelques centaines d'habitants dans ce petit village avant leur évacuation d'urgence. À première vue, il n'y a plus aucune trace de vie ici. Nous sommes seuls. Enfin, c'était ce que nous pensions. La nuit commence à tomber. Avant de commencer l'exploration proprement dite, nous décidons de s'asseoir dans un coin et de manger avant de se lancer dans l'aventure. Au bout de 10 minutes seulement, nous entendons un cri qui semble venir de loin. Il résonne à travers les petites rues étroites autour de nous. Sur le moment, ça nous a glacé le sang, car nous sommes censés être seuls ici, en plein milieu d'une forêt. Nous décidons de raccourcir le repas et de nous lancer dans l'exploration, avec beaucoup de prudence. Armés de nos lampes torches, nous nous aventurons dans les petites rues complètement envahies par les mauvaises herbes. Nous ne remarquons aucune présence, nous avons l'air d'être bien seuls. Nous nous baladons pendant au moins une heure sans rien remarquer de bien particulier, à part toutes ces maisons abandonnées et délabrées. Cependant, nous ressentons tous une sensation très étrange. Nous avons l'impression d'être surveillés. J'ai déjà exploré des villes abandonnées, mais elles n'étaient pas comme celle-ci. Il y a une ambiance très étrange ici. En étant un peu plus attentif à notre environnement, je remarque des tags sur les murs. Il y a toujours ces fameux prénoms d'enfants dont je vous avais déjà parlé et que j'avais déjà trouvé dans les catacombes interdites de Paris. On distingue également d'étranges statues et des suspensions dans les arbres qui ressemblent à des objets occultes qui servent à pratiquer la magie noire. Progressivement, je commence à me convaincre qu'il y a bien quelque chose de bizarre ici. Et je me demande s'il n'y a pas un rapport avec la secte du diable. Petit à petit, les indices se multiplient. Nous avons l'impression de ne pas être seuls, d'être épiés et surveillés. Au coin d'une rue sur la droite, je vois un faisceau lumineux. Juste le temps de prévenir mes amis et il disparaît. On aurait dit celui d'une lampe torche, mais pas les nôtres. Probablement celle de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes sûrement pas seuls, finalement. Discrètement, nous nous dirigeons vers l'endroit où j'ai vu ce faisceau lumineux. Et bien évidemment, il n'y avait personne. Soudainement, nous entendons des personnes rigoler un peu plus loin derrière nous. Nous nous retournons et nous apercevons 3 silhouettes dans l'obscurité. Elles étaient de très grande taille et semblaient nous fixer. Hésitant, je prends le risque de lancer un bonjour. À ce moment, les 3 silhouettes disparaissent en courant dans des directions opposées. C'est très étrange comme comportement. On dirait des enfants qui s'amusent, mais ils avaient l'air de mesurer au moins 3 mètres de haut, un peu grand pour des enfants. À ce moment-là, il fait complètement nuit. Nous sommes seulement éclairés avec nos lampes torches. Et pour ne pas vous mentir, nous commençons à avoir vraiment peur. Si nous nous faisons agresser ici, qui va venir nous sauver? Va-t-on nous retrouver? Bien évidemment, inutile de vous préciser qu'il n'y a pas de réseau. Nous sommes en plein milieu d'un village fantôme isolé au beau milieu de la forêt. Il ne fallait s'en douter. Nous continuons d'entendre des rires résonner à droite et à gauche autour de nous, mais sans voir la moindre personne. Nous avions prévu de rester quelques jours ici avec notre matériel de camping, mais nous commençons à regretter cette décision et à vouloir anticiper notre départ. J'ai vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose de pas normal ici et que l'on cherche à nous faire fuir. L'urbex a ses limites, et je pense que nous les avons atteintes. C'est alors que nous décidons de repartir. Mais le problème, c'est que nous sommes complètement perdus au milieu de toutes ces maisons. Nous ne savons pas dans quel sens nous diriger pour retrouver la voiture. Nous prenons une direction par hasard. Nous marchons pendant plus de 15 minutes sans succès. C'est un fait. Nous sommes complètement perdus. Bon, ce n'est pas non plus un village très grand, donc ça ne devrait pas durer très longtemps. Mais il fait nuit, ça ne facilite pas les choses. Nous continuons à tourner autour des maisons et nous tombons sur une voiture. Mais ce n'était pas la nôtre. Les phares sont allumés. Nous décidons de nous approcher. Il semble y avoir quelqu'un à l'intérieur. Quand soudain, nous découvrons avec stupéfaction qu'il s'agit d'une voiture de police. 2 agents en sortent et nous demandent ce que nous faisons ici. Nous leur expliquons que nous sommes seulement 3 jeunes avides de sensations fortes et que nous faisons une exploration urbaine à destination d'Internet. Ils nous ont répondu que nous n'avons rien à faire ici et que le lieu est complètement interdit. Par ailleurs, ils nous déconseillent de parler de notre exploration sur Internet. Ils me disent que pour notre propre sécurité, il vaut mieux que l'on reste discret quant à l'existence de ce lieu que l'on n'aurait jamais dû venir ici. Nous montons tous les 3 à l'arrière de la voiture et ils nous conduisent au grand portail d'entrée où nous sommes arrivés un peu plus tôt. Une dernière fois, ils nous avertissent de ne surtout pas parler à personne de ce que nous venons de voir et de l'existence de ce lieu. Ils nous expliquent que ce sont pour des raisons de sécurité, car il est très dangereux de venir s'aventurer ici, sans nous en dire plus pour autant. Nous remontons dans la voiture et nous repartons d'ici. Sur le trajet, j'ai plein de questions qui me trottent en tête. Pourquoi ce lieu est-il gardé si secret? Pourquoi est-il aussi protégé? à tel point qu'il y a des rondes de police à l'intérieur. Pourquoi est-il interdit d'en parler ? Que se passe-t-il vraiment ici ? J'ai compris qu'il y avait des choses très étranges. Les tags sur les murs, les rires autour de nous, les trois silhouettes que nous avons croisées. Si ce lieu est si secret, ce n'est pas par hasard, c'est certain. Dimanche 8 août, 18h. Je suis à l'entrée de l'usine désaffectée dans un quartier du 10e arrondissement de Paris. Je m'apprête à faire une nouvelle exploration urbaine des plus terrifiantes. Il n'y a personne. Le quartier est désert. C'est d'ailleurs assez inquiétant. S'il m'arrive quelque chose, il n'y aura personne pour m'aider. Je suis toujours seul pour ce genre d'exploration. Personne n'est assez courageux pour m'accompagner. Je m'apprête à retourner dans les sous-sols de Paris, à explorer tous ces tunnels et lieux secrets interdits au public. Souvenez-vous, quand je suis allé explorer les catacombes, j'ai découvert beaucoup de choses très inquiétantes. Les prénoms d'enfants sur les murs, la présence d'une secte avec des rituels démoniaques et plus encore. Je vous invite à aller écouter les deux épisodes sur mon exploration dans les catacombes interdites de Paris pour plus de détails. Cette fois-ci, je m'apprête à explorer les égouts de Paris. Il y a encore quelques années, il y avait des circuits touristiques payants pour les visiter. Mais depuis peu de temps, l'accès est devenu soudainement interdit, du jour au lendemain. Pourquoi tout d'un coup plus personne n'a le droit de descendre là-bas ? Vous ne trouvez pas ça étrange ? Il doit se cacher des choses que l'on ne veut pas que l'on découvre. Et je ne croyais pas si bien dire. Avant même mon exploration, je me suis renseigné sur le dark web pour trouver des chemins d'accès ainsi qu'un plan des égouts de Paris. J'ai découvert qu'il y a plusieurs portes d'accès dans la capitale. Elles sont très difficiles à trouver car très secrètes. J'ai également appris qu'il y a des rondes de police organisées dans les sous-sols pour protéger les lieux. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien cacher de si important là-bas ? Sur le dark web, il y a certaines rumeurs qui disent qu'il y aurait eu plusieurs enlèvements, crimes et toute autre atrocité qui serait la cause de la fermeture des lieux au public de manière définitive. Aujourd'hui, je suis aux portes de l'enfer et je m'apprête à pénétrer dans les sous-sols interdits et terrifiants de Paris. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle exploration urbaine ? J'ai pris avec moi un simple sac à dos, à manger, de l'eau, une lampe torche et mon téléphone portable. Je ne vous cache pas que toutes ces histoires d'enlèvement et de crimes me font froid dans le dos et me découragent à entrer à l'intérieur. Mais il faut que j'y aille. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses que l'on veut nous cacher là-dessous. J'entre à l'intérieur de l'usine désaffectée à travers un petit grillage ouvert. Je me faufile à l'intérieur et me dépêche de rentrer pour ne pas me faire repérer. L'accès aux égouts de Paris se situe quelque part dans cette usine désaffectée, mais je ne sais pas où exactement. Je n'ai pas réussi à trouver de plan précis sur le dark web, juste des indications GPS ainsi que des explications imprécises. L'usine n'est pas très grande, je devrais m'en sortir. Après plusieurs dizaines de minutes de marche, je parviens enfin à trouver une plaque d'égout ouverte sur le sol. Je pointe ma lampe torche à l'intérieur et cela semble être la fameuse entrée pour accéder aux égouts de Paris. J'ai l'impression d'être en plein milieu d'un film d'horreur. La nuit commence à tomber progressivement. Je suis à l'intérieur d'une usine désaffectée, complètement seul. Vous imaginez la scène ? Il y a juste le bruit du vent qui souffle entre les tôles d'acier, et je m'apprête à pénétrer dans un trou d'une profondeur d'une dizaine de mètres avec une seule lampe torche pour m'éclairer. Je lance mon sac à dos en premier, puis je descends par une petite échelle de secours et j'arrive enfin en bas de la fosse d'accès. Il fait très froid en bas. Mes pas résonnent à des centaines de mètres autour. À peine arrivé, il y a déjà une intersection avec quatre tunnels au choix. Je ne sais pas où aller. Je m'aventure donc complètement par hasard à l'intérieur des égouts de Paris. Au sol, il y a de grandes flaques d'eau, mais le chemin reste praticable. On dirait vraiment que je ne suis pas le seul à être déjà passé par ici et que l'endroit est très souvent fréquenté. D'ailleurs, sur le sol, on peut retrouver des débris de nourriture et des bouteilles vides. C'est certain. L'endroit doit être très souvent visité. J'espère ne pas me retrouver nez à nez avec quelqu'un d'autre. Je marche pendant des heures à travers des tunnels sans fin et sans intérêt particulier. Je ne découvre rien de si terrifiant que ça, à part le fait d'être à plusieurs mètres sous terre, complètement seul et dans le noir. Il doit être déjà au moins 22 heures, mais j'ai toute la nuit devant moi. Soudain, sur un mur, j'aperçois une flèche rouge qui semble indiquer une direction bien précise. Ne sachant pas où je vais, je décide de la suivre. Une dizaine de mètres plus loin, c'est une autre flèche qui se présente devant moi. Je continue mon chemin. Elles semblent toutes vouloir me diriger dans une direction bien précise. Je suis curieux de voir ce que je vais découvrir là-bas. Je marche encore et encore, dans le noir total, simplement éclairé par ma lampe torche. Petit à petit, je commence à entendre un bruit lointain qui résonne à travers les longs tunnels. Il semble venir de là où me dirigent les flèches. Plus je les suis, plus le bruit est important. On dirait un groupe de jeunes qui discutent et qui rigolent. J'avais vu juste. Il s'agit de 5 jeunes assis au sol avec des bouteilles à la main et de la musique. Rien de plus. Ils avaient l'air inoffensifs. Je décide de discuter un peu avec eux. Ils me demandent ce que je fais ici. Je leur explique mes intentions et mes diverses explorations urbaines que j'ai déjà faites. Ils me disent qu'ils sont des habitués des lieux car ils ne vivent pas très loin. Ils ont l'habitude de se retrouver ici les week-ends pour être tranquilles, au calme. Ils ont l'habitude de voir des personnes comme moi faire des explorations dans ces lieux interdits et très fascinants. Je leur demande s'ils ont des explications quant à la fermeture soudaine des sous-sols il y a quelques mois suite à des incidents qui sont restés secrets. À ce moment précis, ils se mettent à rigoler entre eux. J'ai eu l'impression d'avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas, d'avoir mis le doigt sur un sujet tabou. Ils me répondent qu'il se passe parfois des choses très étranges ici, qu'ils entendent régulièrement des bruits de cris stridents, d'appels au secours ou encore des rires démoniaques qui résonnent dans les longs couloirs. Ils n'ont pas l'air inquiets, ils semblent prendre ça à la rigolade. Pour eux, ce sont juste d'autres jeunes qui font des blagues et des légendes urbaines infondées. Quand je leur explique que j'ai découvert sur le dark web qu'il y aurait des enlèvements dans les sous-sols de Paris, ils rigolent et me disent que ce sont des foutaises. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Cependant, ils me disent qu'ils ne sont jamais allés plus loin que là où ils sont, qu'il y a un endroit bien précis dans lequel personne n'ose jamais s'aventurer. On l'appelle la chambre mortuaire. C'est un nom assez macabre qui définit une partie des égouts de Paris qui a été le théâtre de plusieurs disparitions non élucidées à ce jour. Il y a encore quelques mois, c'était un circuit touristique très populaire, mais aujourd'hui totalement interdit au public. C'est à quelques centaines de mètres d'ici. C'est d'ailleurs de là que semblent venir les cris et hurlements qu'entendent régulièrement le groupe de jeunes. Ils me découragent d'y aller, car il y a beaucoup de légendes et de rumeurs à ce sujet. La chambre mortuaire des égouts de Paris est un lieu occulte très connu sur le dark web. Il se dit que tous ceux qui s'y aventurent n'en reviennent jamais. Je remercie le groupe de jeunes pour toutes les informations et leur souhaite une bonne soirée. En partant, je les entends chuchoter quelque chose entre eux. Je continue de m'enfoncer dans les longs couloirs des égouts en direction de la fameuse chambre mortuaire. Il fait de plus en plus froid et de plus en plus humide. Les tunnels semblent toujours plus détériorés et impraticables. Sur le sol, il y a des livres très vieux et complètement déchiquetés ainsi que pleins de débris de verre. J'ai l'impression que je suis pas loin du but. La chambre mortuaire semble à quelques mètres de moi. Je ne croyais pas si bien dire. Sur le mur juste à ma droite, il est tagué en lettres rouges dégoulinantes « Yaya ». Vous vous souvenez? La station de métro interdite, les catacombes, la clinique du diable. Dans tous ces lieux que j'ai explorés, j'ai découvert ce même nom inscrit sur les murs. Vous ne vous souvenez vraiment pas de ce que cela signifie? Yaya est une figure occulte démoniaque qui idolâtre les membres de la secte du diable. Quand il y a son nom inscrit, cela indique que c'est un lieu de rassemblement de la secte. Ce sont tous des endroits maudits, secrets et terrifiants. Ce n'est pas très rassurant de voir son nom inscrit sur un mur. À n'importe quel moment, je peux tomber nez à nez avec l'un des membres de la secte ou autre chose encore plus inquiétant dont je n'ai pas encore fait la découverte. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je suis au bon endroit. Je suis bel et bien dans la chambre mortuaire. Ça doit encore être un de ces lieux tenus secrets où ils font leurs réunions sataniques et où ils invoquent des démons pour parvenir à leur fin. Cette fois-ci, il n'y a aucun bruit, je n'entends rien. Il semble que je suis complètement seul ici. C'est pour cette raison que je décide de m'aventurer encore un peu plus loin à la découverte de cette chambre mortuaire pour peut-être trouver plus d'informations que je n'ai déjà. Il s'agit d'une succession de grandes salles constituées de vieilles pierres avec des noms et des dates gravés dessus. Je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. C'est peut-être les membres de la secte avec leur date de naissance ou leur date d'adhésion, je ne sais pas. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des dates dans le futur, comme 2034 par exemple. Il y a également de grandes bibliothèques avec plein de livres anciens. Je décide d'en ouvrir un au hasard et il s'agit du même livre que j'ai reçu chez moi il y a quelques semaines et que je vous ai raconté dans l'épisode précédent. C'est un livre de démonologie qui répertorie tous les démons et forces occultes. Il n'y a plus aucun doute. Il doit se pratiquer des rituels auxquels je ne souhaiterais pas assister ici. Je ne vous cache pas que je suis en stress total depuis les 20 minutes que je suis dans cette salle. J'ai peur que quelqu'un arrive et me surprenne ici. Partout autour de moi, il y a des bougies éteintes avec de la cire qui a coulé tout autour. À part les bougies, les livres, les noms gravés dans les pierres au mur, je ne trouve rien d'autre de particulièrement intéressant. Mais c'est une preuve de plus que la secte existe bel et bien et qu'ils se réunissent ici régulièrement, tout comme dans les autres lieux que j'ai déjà découverts. Soudain, j'entends un bruit sourd et les murs se mettent à trembler. Cela dure environ 30 secondes, mais c'était les 30 secondes les plus longues de ma vie. J'ai eu l'impression que les tunnels allaient s'écrouler, que j'allais être enterré vivant. De la poussière me tombe dessus d'entre les pierres. Les livres tombent un par un des étagères en bois. Je décide de m'enfuir, sans savoir où je vais. Je m'aventure dans l'un des couloirs au hasard. Je cours sans savoir où je vais, sans bien réfléchir, juste dans l'intention de me sauver d'ici. Quelques minutes plus tard, j'ai enfin réussi à trouver une échelle qui me conduit vers une bouche d'égout de sortie. Je suis arrivé en plein milieu d'une rue déserte, quelque part dans Paris, mais je ne sais pas où. Quand j'ai voulu sortir mon téléphone pour regarder l'heure, je me suis rendu compte que je l'avais oublié à l'intérieur des égouts de Paris. J'ai dû le faire tomber dans la chambre mortuaire pendant les éboulements. Trop tard, je ne vais pas retourner là-bas et risquer ma vie. Il doit être au moins 1h du matin, il est temps que je rentre chez moi. Mais sans savoir où je suis et sans le GPS de mon téléphone, ça va être compliqué.
Tout le monde connaît le quartier de la Défense à Paris. Ses gratte-ciel, son centre commercial, le siège des plus grandes entreprises françaises. Mais sous ses centaines de bureaux, de boutiques, sous ces milliers de personnes qui se croisent chaque jour, vous n'imaginez pas ce qu'il se passe dans le plus grand secret. Je vais vous raconter l'histoire terrifiante des sous-sols de la Défense. Je suis passionné d'exploration urbaine et j'ai l'habitude d'aller me balader dans les tunnels du métro et dans divers lieux insolites. C'est pour moi une partie de plaisir et un échappatoire au monde réel et au quotidien. Mais j'ai découvert un endroit beaucoup plus mystérieux, dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à présent. Savez-vous que sous les immeubles de la Défense, sous l'immense centre commercial, se trouvent à plusieurs dizaines de mètres sous terre, de longs tunnels, de grands entrepôts de plusieurs milliers de mètres carrés, et ce qui m'a le plus surpris, c'est que tous ces espaces souterrains sont complètement vides et laissés à l'abandon. Imaginez tout cet espace sous nos pieds dont personne ne connaît l'existence et qui ne sert à rien. Étrange, vous ne trouvez pas? J'ai donc voulu mener mon enquête, et après quelques recherches, j'ai obtenu des informations sur ces fameux tunnels et entrepôts souterrains. Il s'agirait d'une très grande station de métro que devait abriter la ligne 1 lors de son extension depuis le centre de Paris. Cependant, ce projet n'a jamais vu le jour et la station construite est restée vide et inutilisée. Les tunnels, eux, devaient servir d'acheminement pour les câbles électriques. Voilà ce qui officiellement explique la présence de ces milliers de mètres carrés sous terre complètement vides. Mais ça, ce n'est que la partie agréable de l'histoire. Durant ma visite des sous-sols de la Défense, j'ai vu des écritures bizarres sur les murs. Tout un tas de symboles dont je ne connais pas la signification. Il y a également des prénoms écrits sur les murs. On peut lire « Antonin »,« Jérémy », »,« Antoine ». Et certains sont barrés. J'ai trouvé ça très étrange. Dans une autre salle, j'ai vu un lit d'hôpital tout rouillé. Je me suis demandé pourquoi et comment il est arrivé ici. Pour avoir des réponses à toutes mes interrogations, j'ai fait de nouvelles recherches sur des forums sur internet. Mais les informations sont très rares, car ce lieu très mystérieux n'est pas très connu. Et j'ai l'impression que les quelques personnes qui ont des informations les gardent secrètes. Mais pourquoi ? C'est comme s'il y avait quelque chose à cacher, quelque chose de terrifiant et d'interdit. Et c'est justement ce qui m'a donné envie d'en savoir plus. Je suis donc retourné explorer les sous-sols une nuit, tout seul. Une fois à l'intérieur, il y avait toujours ces prénoms et symboles bizarres sur les murs. J'ai emprunté un tunnel étroit quand soudain j'ai entendu du bruit. J'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai éteint ma lampe, j'étais donc dans le noir complet. J'entendais d'autres personnes parler de manière lente et peu audible, comme s'ils chantaient une chanson, mais au ralenti. C'était très étrange. Je voulais en savoir plus. J'ai donc essayé d'avancer très rapidement dans le tunnel jusqu'à la prochaine porte pour tenter d'apercevoir quelque chose, mais très discrètement pour ne pas me faire repérer. Je trouve une petite ouverture dans le mur qui me permet d'entrevoir ces autres personnes. Ils étaient une dizaine, je dirais, éclairés par un feu de camp très vif, vêtus de robes blanches et recouverts par ce qui ressemblait à des taches de sang. En voulant prendre une photo avec mon téléphone, j'avais oublié d'enlever le flash. Ils se sont alors tous retournés vers moi. J'ai paniqué et je me suis enfui. J'ai couru le plus vite possible que je le pouvais dans ce long tunnel. J'arrive à trouver une sortie et à remonter à la surface. J'étais donc en sécurité, mais je n'ai pas pu obtenir plus d'informations. Le mystère reste entier. Que se passe-t-il dans les sous-sols de la Défense? Qui étaient ces personnes et que faisaient-ils? Étaient-ce simplement des jeunes qui faisaient une soirée improvisée? Je n'en sais rien. Mais j'en doute. Je veux avoir des réponses à toutes les questions que je me pose. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de très étrange ici, et je ne veux pas rester là. Après plusieurs semaines de recherches difficiles et infructueuses, j'ai pu enfin obtenir quelques informations. J'ai parcouru le dark web, car sur internet il n'y avait rien. Juste d'autres mecs comme moi qui sont allés se balader dans les sous-sols, mais sans plus d'informations sur ce qu'il s'y passe vraiment. J'ai donc pu voir des vidéos assez terrifiantes, où l'on voyait des sortes de rituels, avec une assemblée de personnes habillées de drap blanc. Les vidéos sont toutes floues et courtes, mais je comprends très vite qu'il ne s'agit pas simplement d'une bande de jeunes qui font la fête. Sur un autre site du dark web, je suis tombé sur un forum où des membres parlent de sacrifices d'enfants, de kidnapping. Un autre affirme que les noms écrits sur les murs seraient ceux d'enfants mystérieusement disparus depuis plusieurs années. Comme par exemple Damien, un enfant disparu le 14 février 2018. Son nom est écrit avec ce qui ressemble à du sang sur le mur d'un des tunnels. Tout cela serait l'œuvre d'une secte interdite et officiellement disparue depuis plus de 20 ans, mais qui continuerait d'opérer des sacrifices, entre autres dans les sous-sols, car ce lieu est inconnu et à l'abri de tous les regards. Il serait responsable de dizaines d'enlèvements d'enfants pour les sacrifier dans le but d'honorer leur croyance mystique, un dieu connu sous le nom de Yaya, qui est lui aussi écrit un peu partout dans les sous-sols. C'est terrifiant. Les membres de cette secte seraient fous et incontrôlables. Certains seraient des échappés d'hôpitaux psychiatriques. D'autres seraient des politiques influents, et il y aurait aussi des hauts dirigeants de grandes entreprises. Il n'y aurait aucune information sur Internet pour garder leur anonymat. Ils feraient supprimer toutes les photos, vidéos et témoignages pour se protéger et ne pas révéler leur existence. Tout le monde a déjà entendu parler des catacombes de Paris, et certains d'entre vous y sont peut-être déjà allés. Mais savez-vous que seulement 1% sont autorisés aux visiteurs? Tout le reste a été condamné, et est interdit d'accès. La raison est évidente. Ce sont des carrières trop anciennes et très dangereuses. Il y a un risque d'éboulement, et certaines parties sont même inaccessibles. Pourtant, malgré cette interdiction, nombreux sont ceux qui s'y aventurent. Ils empruntent une petite entrée secrète cachée quelque part dans Paris, un petit passage très étroit plongeant à plus de 30 mètres sous terre. Beaucoup d'entre eux n'en sont jamais revenus, et quelques survivants n'ont jamais eu le courage d'y retourner. Il paraît qu'il se passe des choses très étranges là-bas. Vous me connaissez, toute cette histoire m'intrigue et j'ai voulu aller voir par moi-même. Par chance, j'en suis revenu sain et sauf, et je vais vous raconter ce qu'il s'est réellement passé là-bas. Voici l'histoire terrifiante des catacombes interdites de Paris. Il existe plus de 300 km de carrières souterraines et un seul kilomètre est autorisé aux visiteurs. À l'origine, ces carrières ont servi à fournir les pierres et matériaux pour construire la ville de Paris. À la fin du XVIIIe siècle, pour désengorger les cimetières parisiens, plus de 6 millions de corps et d'ossements y sont enterrés. Comme vous pouvez alors l'imaginer, une ambiance très macabre règne dans les catacombes. C'est un lieu très obscur et terrifiant, où il fait nuit pour l'éternité. Entre cadavres et ossements, des centaines de galeries se croisent. Partout sous Paris, c'est un vrai labyrinthe. Comme vous, j'ai déjà entendu parler de tout ça. Je connaissais l'existence de ces catacombes interdites aux visiteurs et secrètes. J'ai trouvé quelques vidéos sur Internet. Ça a éveillé ma curiosité. Surtout que, sur l'une d'entre elles, j'ai cru apercevoir des salles de rituels et des inscriptions sur les murs qui me sont familières. Des prénoms d'enfants et le nom du démon Yaya. Vous vous souvenez ? Je vous en ai parlé dans les épisodes précédents. Ça a été le déclic. Il faut absolument que j'aille enquêter dans ce lieu. Même si c'est interdit et très dangereux, je dois y aller pour peut-être avoir des réponses à mes questions. La plupart des personnes qui y vont n'en reviennent jamais, et les quelques-uns qui en sont revenus ne veulent plus y retourner. Malgré cette peur qui commence à m'envahir, ma curiosité est trop forte. Il faut que j'y aille. Le problème, c'est que les catacombes sont une vraie forteresse. Impossible d'y accéder. Aucune entrée officielle. Aucun plan. Rien du tout. Après quelques recherches sur le dark web, j'ai obtenu la localisation d'un accès au souterrain. Je vais le garder secret car je ne voudrais pas que vous alliez là-bas. C'est trop dangereux. Samedi soir, 18h, je suis devant l'entrée. C'est un petit trou dans le sol, pas plus grand que moi. Je me demande d'ailleurs si je vais réussir à passer. Je jette d'abord mon sac à dos, dans lequel j'ai pris de quoi boire et manger, au cas où je reste plusieurs jours là-dessous. Puis, c'est à mon tour. Je glisse sur au moins 10 mètres et je tombe au sol. Je regarde en l'air et j'aperçois la lumière du jour qui passe par le trou par lequel je viens d'entrer. Je me demande comment je vais réussir à remonter par là. Peu importe, je suis à l'intérieur des catacombes, c'est ce que je voulais. L'endroit est très humide, dans le noir complet. J'ai pris une lampe torche pour m'éclairer. Je n'ai pas de plan, il n'en existe pas. J'avance donc dans les galeries au hasard. J'ai un peu peur, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vais peut-être faire des mauvaises rencontres, je ne sais pas. J'avance, de galerie en galerie. Sur les murs, il y a le nom des rues qui se trouvent à la surface, ainsi que la profondeur. Ici, je suis à 36 mètres sous terre. Il n'y a personne. Mes pas résonnent jusqu'à des centaines de mètres plus loin. Je dois parfois traverser des passages d'eau d'au moins 30 cm de profondeur. Soudain, alors que ça fait déjà plusieurs heures que je marche sans savoir où je vais, j'aperçois une petite ouverture dans un mur où il est écrit au-dessus « Ici commence le royaume des morts ». J'avoue que sur le coup, ça me glace le sang. Mais peu importe, j'y vais. Après tout, je suis là pour ça. J'emprunte ce petit passage très étroit. Je ne suis pas claustrophobe, mais ici, l'oxygène commence à se réduire, je suis de plus en plus essoufflé et je me sens oppressé. J'arrive dans une petite pièce avec des bancs disposés en cercle autour d'une table, des livres un peu partout, beaucoup de poussière, des tags sur les murs avec des dessins assez effrayants de pendus et autres crimes. L'ambiance est très pesante. Être seul ici n'est pas rassurant. Je regarde les livres. Il y a de tout. Peut-être que chaque personne qui est passée ici a déposé le sien. L'un attire mon attention plus qu'un autre. « Initiation à la magie noire » est inscrit sur la couverture. Je décide de ne pas l'ouvrir et de continuer ma visite. Je continue donc de traverser de longs couloirs. L'oxygène diminue encore plus. Je dois marcher plus lentement pour ne pas m'essouffler trop vite. Quand tout d'un coup, au croisement de deux galeries, je me retrouve nez à nez avec une statue. Sur le coup, je panique. Avec la fatigue et le stress, j'ai cru que c'était une autre personne. J'ai eu peur. Je regarde cette statue. Elle est imposante. Elle est très effrayante aussi. Il s'agit d'un homme avec une tête de chèvre et des ailes d'ange, assis sur un trône, levant le bras droit et faisant un signe que je ne comprends pas. En levant la tête, j'aperçois un pentagramme gravé sur le mur au-dessus. C'est alors que je manque de m'évanouir. J'ai devant moi la statue du démon Baphomet. Je suis donc dans un temple satanique. Je suis terrorisé. Je me retrouve au milieu d'un temple démoniaque, seul, à 36 mètres sous terre. Et si quelqu'un arrive, je fais quoi ? Sur les murs, il y a tout un tas de choses écrites avec du sang. Des prénoms d'enfants, des noms de démons, des chiffres. Je ne comprends pas le sens de tout ça, mais il doit y en avoir un. Il y a aussi des bancs et des livres. L'endroit est assez grand, plus grand que les autres salles que j'ai pu visiter. Cependant, l'ambiance est très pesante ici. Au sol, il y a une trappe. Je ne sais pas ce qu'elle renferme et je n'ose pas l'ouvrir. À ma droite, un long tunnel attire mon attention. J'entends un bruit au loin qui résonne jusqu'à mon oreille. Quand soudain, j'aperçois la lumière d'une lampe torche. Puis deux, puis trois. Quelqu'un arrive. Ils sont plusieurs même. Je panique. Je n'arrive plus à réfléchir tellement j'ai peur. Je me cache derrière des rochers qui se trouvent dans un coin de la pièce. J'éteins ma lumière et j'attends. J'ai le cœur qui bat très vite.
Je suis essoufflé, mais je me force à ne faire aucun bruit. Qui sont ces personnes qui arrivent? Que vont-ils me faire s'ils me trouvent? Quelques secondes plus tard, ils rentrent un par un dans la pièce. Ils sont au moins une vingtaine, tous vêtus d'un long drap noir, tous masqués. Je ne vois pas leur visage. Ils s'agenouillent tous devant la statue et se mettent à prier pendant plusieurs minutes. Ça me semble durer une éternité. Au fur et à mesure que le temps passe, je réalise que je suis en train d'assister à une messe satanique. À la fin de leur prière, ils vont tous s'asseoir sur les bancs disposés en cercle. L'un d'eux se positionne en hauteur sur un trône et semble présider la cérémonie. Mes confrères, adeptes de Satan, membres de la révolte, nous allons aujourd'hui accueillir un nouveau membre parmi nous, dit-il. À ce moment, un homme est amené au milieu des autres, les mains ligotées par une corde dans le dos. Il s'agenouille au milieu des autres et dit « Je promets d'être fidèle à notre maître et à mes confrères jusqu'à la domination suprême. Un jour, nous vaincrons. » Ils récitent alors tous une prière dont je ne comprends pas le sens, puis se lèvent et repartent par le même tunnel par lequel ils sont entrés. Ça a duré au moins une heure. Une heure pendant laquelle j'ai eu peur à chaque instant qu'ils me trouvent et qu'ils me tuent. Mais j'ai survécu. Et j'ai enfin la preuve que cette secte démoniaque existe bien. Maintenant, je dois ressortir d'ici. Et ça ne va pas être facile, car je me suis complètement perdu. Je décide d'emprunter le même tunnel qu'ils ont pris pour repartir. Je marche sur plusieurs centaines de mètres pour arriver dans un cul-de-sac. Au-dessus de moi, un puits étroit avec une vieille échelle rouillée. Peut-être que ça va me permettre de remonter à la surface. Je monte l'échelle qui doit faire au moins 30 mètres de haut. Je suis épuisé et mort de fatigue. Je me force à ne pas lâcher les barreaux. La chute pourrait être fatale. Une fois arrivé en haut, j'ouvre une plaque d'égout et j'aperçois la lumière du jour. Je suis arrivé à sortir de cet endroit. Enfin. Je suis soulagé, mais c'est avant de me rendre compte que je suis en plein milieu d'une forêt. Des arbres autour de moi à perte de vue. Mais où suis-je? Attendez un instant. Je connais cet endroit. J'y suis déjà venu ici. Mon Dieu. Mais c'est la forêt que j'avais visitée après avoir découvert la station secrète de la ligne 14 du métro, celle qui a été fermée par mesure de sécurité. Je vous avais raconté tout ça dans l'épisode précédent. Vous vous souvenez? C'est ici qu'il y avait l'hôpital psychiatrique, aujourd'hui abandonné, duquel se sont échappés tous les fous qui sont membres de la secte. Suite à leur évasion, cette station de métro qui desservait l'hôpital a été condamnée, ainsi que la forêt et le village voisin. Tout ça par mesure de sécurité, car il y a eu de nombreux crimes commis par la secte ici. Désormais, j'ai des réponses à mes questions, mais d'autres m'obsèdent encore. J'angoisse d'avoir découvert tous ces terribles secrets. Ça ne me semble pas réel. Vous imaginez tout ce qu'il se passe autour de nous sans que nous nous en rendions compte? Il y a plein de choses à découvrir. Mais en attendant, il est 21h et il faut que je rentre chez moi. Il faut que je sorte de cette forêt. Mais attendez, qu'est-ce que je vois au loin? Ce sont les ruines de l'hôpital psychiatrique. Il semble y avoir de la lumière à l'intérieur. Je vais aller voir. Mais ça, je vous le raconterai dans le prochain épisode. C'était une très grande maison avec une atmosphère particulière. Mon beau-père travaille dans l'immobilier et nous avions l'habitude d'acheter régulièrement de nouvelles maisons pour les revendre quelques années plus tard. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai donc beaucoup déménagé étant petit. Mais il y a une maison qui m'a plus marqué que les autres. À l'étage, il y avait 6 chambres. Un long couloir sombre permettait d'y accéder. Il n'y avait pas de fenêtre et uniquement une seule ampoule au milieu. Alors autant vous dire que quand j'allais dans ma chambre, c'était toujours la boule au ventre. Car en effet, le fond du couloir était complètement sombre et on ne voyait pas le mur du fond. Il semblait infini. C'était souvent que j'entendais des bruits de grattement contre les murs alors que j'étais seul à la maison. Pendant les nombreuses années où nous avons vécu dans cette maison, je n'ai jamais osé aller jusqu'au bout du couloir. Même quand j'allais dans ma chambre ou dans la salle de bain, je regardais toujours le sol par peur de tomber nez à nez avec quelque chose de terrifiant. Bon, en même temps, j'étais jeune et j'avais beaucoup d'imagination, car au final, je n'ai jamais rien vu de particulier. Ce n'est que quelques années après que j'ai découvert ce qui n'allait pas dans ce lieu. C'est beaucoup plus subtil et inconscient que vous ne pouvez imaginer. Durant toutes ces années, malgré mon jeune âge, j'avais un ressenti bizarre ici. Je me sentais pas totalement à l'aise et pas totalement seul. Ma mère, que maintenant vous connaissez grâce aux épisodes sur la sorcellerie, était du même avis que moi. elle ressentait plusieurs présences dans la maison, pas forcément très rassurantes et bienveillantes. Nous y sommes restés 4 ans au total. Durant les 2 premières années, il ne s'est rien passé de particulier. Ce n'est que quelques mois plus tard que tout a commencé. Comme je vous l'ai dit, au début, nous n'étions pas inquiets. Il y avait des tapements dans les murs. Nous pensions que c'était les vieilles canalisations. Nous nous réveillons souvent en pleine nuit sans aucune raison. Mais là encore, pas d'inquiétude particulière. C'était des petits événements étranges mais sans gravité. Un jour, j'ai regardé un film d'horreur qui parlait de l'éveil du monde des morts. Les esprits et démons se réveilleraient à une heure bien précise de la nuit pour venir nous hanter. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec ce qu'il nous est arrivé, ma mère et moi. Du coup, j'ai fait des recherches sur internet pour approfondir le sujet. Je suis tombé sur plein de sites terrifiants. Vous savez ce qu'est l'heure du diable ? Selon la légende, c'est la nuit à 3h30 du matin que le monde des morts se réveille pour venir hanter celui des vivants. Cette découverte m'a fait froid dans le dos pour la simple et bonne raison qu'avec ma mère, nous étions réveillés très régulièrement en pleine nuit à 3h30 du matin. C'est alors que les choses ont pris une tournure complètement différente. Un événement qui nous paraissait banal et sans gravité est devenu une source d'angoisse et de terreur quotidienne. Peut-être que c'était simplement le fruit du hasard, mais quand cela se produisait 3 fois dans la semaine, c'était quand même très étrange. Pourquoi nous nous réveillons à 3h30 du matin sans aucune raison? Toujours à la même heure fixe, l'heure du diable. C'est à cette période que j'ai commencé à faire des terreurs nocturnes. J'avais du mal à m'endormir. J'avais peur que la maison soit habitée par un phénomène qui nous dépasse. J'avais peur de tomber nez à nez avec quelque chose de terrifiant. Je passais le plus de temps possible avec le reste de ma famille dans le salon. Et quand venait le moment de dormir, c'était un vrai cauchemar et une appréhension totale. Ce qui m'a le plus traumatisé, c'est quand ma mère m'a raconté ce qui lui est arrivé une nuit. En plein sommeil, elle a eu la sensation que quelqu'un était assis sur son lit. Elle m'a même dit qu'elle entendait sa respiration. Elle s'est réveillée brusquement et bien sûr, il n'y avait personne. Elle était seule dans sa chambre. Et en regardant son réveil, il était 3h30. Ça a d'ailleurs été le déclic qui nous a poussés à partir de cette maison. Du jour où nous avons déménagé, ce phénomène s'est arrêté aussitôt. Et il ne s'est jamais reproduit jusqu'ici. Quand je repense à cette époque, j'en ai encore des frissons dans le dos. D'imaginer que ma maison était hantée par un démon qui venait nous rendre visite la nuit et qui avait une influence sur nos esprits. C'est terrifiant. Il est déjà 7h du matin, la nuit est passée vite. Je suis encore fatigué, mais tant pis. Je dois me lever, le réveil vient de sonner. C'est étrange, il y a comme un nuage de brume sur le sol de ma chambre. La lumière est toute bleue, comme si nous étions dans un film. J'essaye de me lever du lit, mais je n'y arrive pas. Je suis comme cloué au matelas. Je ne peux pas bouger un seul doigt. On dirait que quelque chose me retient. J'essaye de me débattre, mais rien n'y fait. Je n'arrive pas à bouger du moindre centimètre. J'ai l'impression qu'une force surnaturelle contrôle tout mon corps. C'est très curieux comme sensation. Je suis à la fois conscient, mais pourtant prisonnier de mon corps. C'est comme si mon esprit était ailleurs, pas ici avec moi. Est-ce que je suis en train de faire un rêve, ou plutôt un cauchemar? J'ai pourtant la sensation d'être réveillé et conscient de tout ce qu'il se passe. Ça arrive souvent de faire des rêves qui paraissent réels. Mais là, c'est différent. Je suis certain que je suis réveillé. Quelques minutes plus tard, j'entends soudainement des bruits qui semblent venir de la cuisine. Comme si quelqu'un était en train de manipuler les assiettes et les couverts. Alors que je vous le rappelle, je vis seul. J'entends des bruits de pas se diriger vers la porte de ma chambre. Soudainement, la porte s'ouvre doucement. Il n'y a personne derrière. Elle vient de s'ouvrir toute seule. C'est peut-être un courant d'air, je ne sais pas, mais c'est assez troublant. Tout d'un coup, j'aperçois une ombre qui ressemble à celle d'un humain, se déplaçant le long du mur et faisant le tour de la chambre. Puis, l'ombre s'arrête, reste immobile pendant quelques secondes. Et là, tout d'un coup, sort une créature du mur. Comme si l'ombre venait de prendre vie et s'est transformée en un véritable monstre. Cette chose se dirige vers moi, me saute dessus dans mon lit et essaye de m'étouffer en me serrant le cou. J'essaye de me débattre. Je ne peux toujours pas bouger. je suis complètement figé. Puis tout d'un coup, je me réveille en sueur et essoufflé, comme si je venais de courir 10 kilomètres. Cette fois-ci, je suis bien réveillé. Il n'y a plus de brume autour de mon lit. Je suis libre de mes mouvements, je peux bouger comme bon me semble. Bien sûr, il n'y a personne dans la chambre. L'ombre a disparu. Il n'y a aucun monstre ou autre créature du genre. Tout cela n'était qu'un cauchemar ? Visiblement oui, mais ça paraissait tellement réel. Jusqu'ici, rien d'alarmant. J'ai déjà fait ce genre de cauchemar plusieurs fois dans mon enfance, et je n'y ai jamais accordé trop d'importance. Mais un jour, j'ai découvert à travers un reportage à la télévision que je n'étais pas le seul à vivre ce genre d'expérience, que des millions d'autres personnes dans le monde font exactement les mêmes cauchemars, avec les mêmes apparitions, et cette sensation d'être prisonnier sans pouvoir bouger de son lit. J'ai donc fait la découverte de ce que l'on appelle les paralysies du sommeil. Intrigué, je me suis renseigné au maximum sur le sujet et j'ai fait des découvertes troublantes. Nous sommes des millions à relater les mêmes caractéristiques. La brume, les ombres, les monstres, la sensation de paralysie, nous vivons tous plus ou moins la même expérience. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est une expérience très traumatisante. Ce qui est le plus troublant, c'est cette impression que tout cela est réel au moment où vous le vivez. L'impression que vous allez mourir, l'impression que vous êtes paralysé et que vous ne pouvez plus bouger. Ce n'est pas un simple cauchemar, il y a vraiment des sensations réelles. Et bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, cette expérience laisse des séquelles. Certaines personnes en arrivent au point d'avoir peur de dormir, peur de la nuit, peur de perdre le contrôle de son corps une fois de plus. Ça devient une véritable angoisse. Je ne sais pas vous, mais ce phénomène m'intrigue beaucoup. Ça me paraît assez étrange. Il y a quelques explications à ce phénomène. J'ai donc fait la découverte des Shadow People. Les Shadow People sont ces fameuses ombres en forme d'humain qui apparaissent lors des paralysies du sommeil. Dans la communauté du paranormal, on les associe à une présence occulte, un démon, un esprit. C'est comme si ce dernier venait vous hanter dans vos rêves. Vous kidnappez pendant que vous dormez et vous torturez l'esprit. Il essaye de vous attraper et de vous retenir en otage dans votre sommeil pour prendre votre énergie, prendre votre corps, prendre votre âme. Qu'en pensez-vous? Est-ce réel? Est-ce de la fiction? C'est très difficile de trancher et de répondre à cette question. Personnellement, ayant vécu beaucoup de phénomènes paranormaux, je veux bien croire que ce soit la manifestation d'un esprit ou de quelque chose d'autre. D'ailleurs, les Shadow People n'apparaissent pas seulement lors de paralysies du sommeil. Ils peuvent également apparaître sur de vieilles photos, dans des coins sombres de votre grenier ou de votre maison, par exemple. Une chose est certaine, c'est que ce phénomène n'a pas fini de faire parler de lui. De plus en plus de personnes partagent leurs expériences et leurs témoignages.
Qui n'a jamais voulu savoir ce qu'il y a après le terminus du métro? Si comme moi vous êtes curieux de le savoir, alors cette histoire est faite pour vous. On connaît tous la ligne 14 du métro parisien, la plus moderne, la plus récente, mais qui pourtant cache bien des secrets. Je me suis toujours posé la question de ce qu'il peut y avoir après le terminus du métro, et je ne pensais pas découvrir un tel secret. J'utilise la ligne 14 tous les jours pour aller au lycée. Je descends au terminus, la station Saint-Lazare. Enfin, comme je suis curieux, je voulais savoir ce qu'il se passerait si je restais dans le wagon au moment où le chauffeur demande aux voyageurs de descendre. Je suis donc allé faire des recherches sur Internet. J'ai trouvé plein de vidéos de mecs qui se sont filmés en restant dans le métro après le terminus. J'ai été déçu car il ne se passait rien d'intéressant. Le train effectuait simplement un demi-tour pour repartir dans l'autre sens. Cependant, j'ai été intrigué par plusieurs commentaires qui parlent de tunnels secrets et de stations abandonnées. J'en avais déjà entendu parler. Ça a éveillé ma curiosité. J'ai donc voulu poursuivre mes recherches pour en savoir plus, mais je n'ai rien trouvé sur Internet. Et puis, il y a eu ce jour, dont je me souviendrai toute ma vie. le jour où j'ai décidé d'aller voir par moi-même. C'était un dimanche après-midi. Je monte dans le métro. J'attends avec impatience d'arriver jusqu'à la dernière station, pour peut-être enfin avoir des réponses à mes questions. Ça y est, le métro s'arrête, je suis arrivé au terminus, gare Saint-Lazare. Tout le monde descend, sauf moi. Je me cache sous un siège pour ne pas me faire repérer par les caméras de sécurité. Quelques secondes plus tard, toutes les lumières du wagon s'éteignent, les portes se ferment et le train démarre. Je suis stressé et excité à la fois. Qu'est-ce qu'il va m'arriver ? Je commence à regretter d'avoir fait ça. Le train avance lentement. C'est très glauque, car vu qu'il est vide, il n'y a aucun bruit. Juste celui du train qui roule avec les roues qui grincent. Et tout ça dans le noir le plus complet. À ce moment-là, une sensation étrange m'envahit. Un sentiment de solitude. Comme si je suis seul au monde, abandonné du monde réel. Je m'attends à ce que le train s'arrête et à ce qu'il reparte dans l'autre sens, comme j'avais vu sur toutes les vidéos sur Internet. Mais il continue d'avancer lentement. Puis, d'un coup, il accélère. Je suis alors chahuté dans tous les sens car dans le noir, je ne sais pas où me tenir. Ça fait déjà plus de 10 minutes que le train avance à grande vitesse. Puis il freine, d'un coup, tellement fort que ça me propulse contre la paroi du wagon. Le train est à l'arrêt, grand silence. Pas un bruit, noir total. J'allume la lampe torche de mon téléphone portable. Quelques secondes plus tard, toutes les portes s'ouvrent en même temps. Le bruit résonne dans ce qui ressemble à une grande station de métro abandonnée. Je suis là, au milieu de cette station fantôme. Je viens de me souvenir que cette ligne est automatique. Il n'y a pas de conducteur. Je suis donc bien seul. Pas de réseau, pas de lumière à part la lampe de mon portable. Et surtout, aucune sortie. C'est très curieux. Pas de tag sur les murs en béton. On dirait une station toute neuve, qui n'a jamais servi. Les portes qu'il devait y avoir sont toutes condamnées. Le train est toujours là. Il ne repart pas. Il reste immobile, portes ouvertes. Je m'aventure dans la station et je trouve une petite ouverture dans le mur. De quoi pouvoir m'y aventurer. Derrière, il y a des escaliers. Je lève la tête. Il y a au moins 30 mètres de hauteur. Je monte. 10 minutes plus tard, je suis arrivé en haut. J'emprunte un couloir étroit. Et j'aperçois que sur les murs, il y a écrit en grandes lettres rouges « Yaya ». À ce moment-là, une sueur froide me traverse tout le corps. Car je viens de me souvenir que j'ai déjà vu ça ailleurs. Vous vous souvenez ? C'était quand j'avais exploré les sous-sols du quartier de la Défense. J'avais vu ce nom écrit un peu partout sur les murs. J'avais fait des recherches et découvert qu'il s'agit du nom d'un démon dont est fidèle une secte qui hante les sous-sols de Paris. Je vous le raconte dans l'épisode précédent. Vous pouvez aller l'écouter, c'est très mystérieux. Cette secte a déjà dû venir ici. Je ne suis peut-être pas seul. Je continue mon aventure. Cela fait déjà 2 heures que je suis ici. Je marche de couloir en couloir. Ça me paraît sans fin. J'aperçois une lumière au loin. J'avance. C'était une vieille porte en métal, ouverte. Peut-être une sortie. Je passe la porte et je me retrouve dehors au milieu d'une forêt. Des arbres à perte de vue. Je suis perdu au milieu de nulle part. Toujours pas de réseau sur mon téléphone. La nuit commence à tomber doucement. Devant moi, j'aperçois un énorme bâtiment abandonné, qui ressemble à un ancien hôpital. Les fenêtres sont cassées, les murs noircis, tout est dans un sale état. Je m'approche d'une grande porte. Sur le mur, il y a une plaque avec inscrit « Hôpital psychiatrique du Grand Ouest ». J'entre à l'intérieur, il y avait encore ce nom, « Yaya », écrit en grandes lettres rouges un peu partout sur les murs. J'ai pris peur, je ressors. De toute façon, je n'ai pas le temps. La nuit commence à tomber. Je dois partir. Mais je ne sais pas où aller, car je suis au milieu de nulle part. Complètement perdu. Je me demande d'ailleurs comment je me suis retrouvé ici, au milieu d'une forêt et d'un ancien hôpital psychiatrique. Pris de panique, je me mets à courir à travers la forêt. Au bout de 10 minutes, je m'arrête, essoufflé. Au loin, j'aperçois des maisons. Je reprends mon souffle et je me remets à courir dans cette direction. J'arrive dans un petit village. Toutes les maisons sont sans fenêtres, sans portes. Tout est défoncé. Il n'y a personne. Ça ressemble à un village abandonné. Je traverse la rue principale à la recherche de quelqu'un qui peut m'aider. Mais il n'y a personne. Je suis seul. La nuit est presque là. J'ai peur, j'ai faim. Je me fais à l'idée que je vais passer la nuit ici. Au coin d'une rue, j'entends le bruit d'une voiture qui roule lentement. Je regarde. C'est une voiture de police. Me voyant, ils sortent de leur voiture et me pointent avec leurs armes. Je lève les mains, me mets au sol, ils m'arrêtent. Je monte dans leur voiture et on part. Pendant le voyage, ils me posent plein de questions. Ils veulent savoir comment je me suis retrouvé ici. Je leur dis que je me suis perdu. À ce moment-là, ils m'expliquent que j'étais dans un village abandonné et interdit au public car très dangereux. Il y aurait des criminels qui se cachent ici et dans la forêt. Ils me disent que j'ai eu de la chance de ne pas me faire tuer. J'apprends que nous sommes à 40 minutes de Paris. C'est alors que plein de questions me traversent la tête. Comment je me suis retrouvé ici, si loin du centre de Paris d'où je suis parti quelques heures plus tôt? Qu'était ce village abandonné au milieu d'une forêt dont je n'ai jamais entendu parler? Qui sont ces criminels? Et pourquoi ce lieu est gardé si secret? Je venais de découvrir un lieu mystérieux dont personne ne parle. Une chose est sûre, c'est que cette forêt et cet hôpital ont un rapport avec la secte dont j'ai découvert l'existence pendant ma visite des sous-sols de Paris. Il faut que je continue mes recherches. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose de pas clair ici. Je veux savoir d'où vient cette secte. Quel est son but? Qui en fait partie? Qui est ce démon Yaya? Quel est cet hôpital psychiatrique abandonné? Je vais continuer mes recherches. Tous les éléments associés les uns aux autres devraient certainement révéler beaucoup de secrets.
Je suis en route vers l'aventure. Je descends dans un ravin que l'on appelle la Petite Ceinture. C'est une sorte de tunnel à ciel ouvert qui fait le tour de Paris. Autrefois, avant que le métro arrive, c'était une ligne de train qui permettait de desservir les passagers aux quatre coins de la capitale. Mais depuis l'arrivée du métro, cette ligne est complètement abandonnée et il n'y a plus que les rails au milieu de la végétation. Aujourd'hui, c'est un chemin de promenade très prisé des Parisiens, qui est traversé par de très nombreux tunnels, parfois très longs et très sombres. Cependant, la plupart d'entre eux sont clôturés et emmurés. Ils sont donc inaccessibles et interdits. Enfin, ça n'empêche pas des milliers de jeunes qui, comme moi, font des explorations urbaines et trouvent toujours un moyen d'y entrer. C'est justement dans ces tunnels que se cachent des accès pour les catacombes. Ce sont des petits trous dans le sol, pas plus larges qu'une bouche d'égout, qui permettent de s'introduire dans les sous-sols de Paris. Une fois à l'intérieur du tunnel, je suis complètement plongé dans le noir. C'est le moment d'allumer ma lampe torche. C'est un endroit que je connais bien. Je suis déjà venu ici de nombreuses fois. Je marche durant des centaines de mètres. Il y a plein de cailloux partout sur le sol. Il faut d'ailleurs faire attention à ne pas trébucher dans les anciennes rails du train ou de ne pas tomber dans l'une des nombreuses canalisations ouvertes. Je marche, encore et encore, déjà depuis une heure. Je regarde ma montre, il est minuit passé. C'est un endroit très humide, le bruit de mes pas résonne à des kilomètres. Je suis tout seul, mais pourtant j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui marche pas très loin de moi. Je regarde tout autour à l'aide de ma lampe torche, il n'y a personne. Pourtant, quand je commence à marcher, j'ai clairement l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui me suit. Une fois de plus, je me retourne, mais je ne vois rien. Nous sommes en pleine nuit. Je suis fatigué, je suis stressé. C'est sûrement une fois de plus mon imagination qui me joue des tours. Nous y sommes. Sur le mur, j'aperçois une flèche taguée qui indique une des entrées des catacombes. C'est dans ce trou que je vais devoir passer pour pouvoir m'y infiltrer. Il ne faut pas être claustrophobe. La descente fait au moins une vingtaine de mètres et n'est pas plus large que mon corps. La remontée est aussi très difficile, il faut être très agile. Je lance mon sac à dos dans le trou en premier, puis ensuite vient mon tour. Je glisse sur quelques mètres et me voilà enfin arrivé au fond des catacombes. La dernière fois que j'y suis allé, je ne suis pas passé par cette entrée. C'est donc pour moi une découverte. Les catacombes font plus de 300 km sous Paris, et une grande partie reste encore inconnue et inexplorée. Il y a certains endroits des catacombes qui sont réputés avoir une malédiction et dans lesquels il est déconseillé d'y aller, même pour les plus courageux. Les quelques personnes qui y sont allées n'en sont jamais revenues. Au fur et à mesure que je m'infiltre dans les tunnels, j'entends au loin une musique sourde. Ça ressemble à de la musique électro très forte qui résonne tout autour de moi. Plus j'avance, plus la musique est forte. Soudain, j'aperçois des flashs lumineux au loin. J'avance prudemment en essayant de faire le moins de bruit possible. Quoique la musique est tellement forte que ça n'a pas grande importance. Je penche la tête et j'aperçois une centaine de jeunes en train de s'amuser, de danser, tous ensemble dans un grand espace souterrain. Pas d'inquiétude, c'est très courant dans les catacombes. C'est une sorte de fête clandestine. Ce sont juste des jeunes qui viennent s'amuser. Ils ne font rien de mal, malgré que ce soit interdit. Je ne vous conseille pas de le faire, car c'est très dangereux. Il y a déjà eu des effondrements et des éboulements. Enfin, me voilà rassuré, ce n'est rien de grave, je peux continuer mon exploration. Alors qu'il est plus d'une heure du matin, je continue de marcher sans savoir où je vais. Je suis même complètement perdu. Je n'ai pas de plan. C'est très irresponsable de ma part car c'est le meilleur moyen de se perdre et de ne jamais revenir à la surface. Un peu plus tard, je commence à entendre des chants lyriques, de plus en plus forts. Je me demande alors si je ne commence pas à devenir fou. Vous n'imaginez pas à quel point ces chants résonnent à travers les longs tunnels. C'est très angoissant. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais très inquiet. Seulement éclairé avec ma lampe torche, je cherche d'où cela peut-il bien venir, mais je ne trouve rien. Je marche encore et encore, mais il n'y a personne d'autre que moi. C'est très étrange. J'ai pourtant l'impression qu'il y a comme une chorale à quelques dizaines de mètres d'ici. Un point de lumière attire mon attention. Je lève la tête et j'aperçois une petite ouverture dans le plafond. Il semble y avoir quelque chose derrière. À ma gauche, une petite échelle en métal rouillé me permet d'y accéder. Je monte et je passe ma tête à travers la fente. Je découvre avec stupéfaction une église. Oui, vous avez bien entendu. Une église au milieu des catacombes, sous Paris. Elle est assez conséquente, aussi grande que celle que l'on peut trouver dans les petits villages français. Il fait complètement noir. Seule la lumière des bougies permet de voir quelque chose. J'éteins ma lampe torche pour ne pas me faire remarquer car je viens de voir un petit groupe d'une vingtaine de personnes vêtues de grandes robes blanches en train de chanter tous en chœur en direction d'une croix religieuse. Mais je découvre avec stupéfaction qu'il ne s'agit pas d'une église comme une autre, qu'il ne s'agit pas d'une messe ordinaire. En effet, la croix est à l'envers et recouverte d'une peinture rouge. Sans aucun doute, je suis en train d'assister à une messe satanique.
Vous avez sûrement déjà entendu parler des Illuminati ou des francs-maçons, ces groupes qui soi-disant dirigent le monde. Entre fantasmes et réalité, aujourd'hui je vais vous parler de l'existence d'une secte bien plus terrifiante qui hante toute l'Europe dans le plus grand secret depuis des siècles. Une secte composée de fous sortis d'un asile psychiatrique et de criminels. Dans les précédents épisodes, je vous ai raconté avoir découvert que des rituels sataniques ont lieu dans les sous-sols de Paris. J'ai également découvert l'existence d'un village fantôme qui n'apparaît sur aucune carte et dont personne ne connaît l'existence. Tous ces lieux étranges semblent avoir un rapport entre eux, mais je ne savais pas lequel. C'est après plusieurs semaines de recherche que j'ai découvert l'existence de cette secte, et je vais vous raconter sa terrible histoire. Êtes-vous prêt à percer son mystère? Ouvrez grand vos oreilles et fermez votre porte à clé. On ne sait jamais. Elle n'a officiellement pas de nom. Je vais l'appeler la Révolte. La Révolte a été créée au Moyen-Âge. C'était un petit groupe secret composé de quelques rebelles qui voulaient renverser le pouvoir et la religion. Ils voulaient construire un nouveau monde, un monde sans privilèges, un monde d'égalité et de justice. Leur mouvement était illégal car il était considéré comme révolutionnaire et quand il fut découvert, ils furent tous guillotinés. Ce fut la fin de la secte. Ils avaient échoué. Pendant des siècles, nous n'en avons plus entendu parler. La secte avait totalement été oubliée. Ou plutôt, son existence avait été cachée et gardée secrète. Mais en réalité, elle n'a jamais été dissoute. Il existe des traces qui prouvent que la secte n'a jamais vraiment disparu. On peut en trouver des preuves sur Internet, mais c'est surtout dans les sous-sols de Paris que ça se passe. C'est d'ailleurs là que j'en ai découvert l'existence. Comme je vous l'avais raconté, lors de mes explorations urbaines, j'ai découvert des choses étranges dans les souterrains de Paris. Des rituels sataniques, des prénoms d'enfants écrits au sang sur les murs, des livres d'incantations démoniaques et de sacrifices. Les membres de la secte seraient composés de fous issus d'un asile psychiatrique qui aurait pris feu il y a plus de 30 ans. Il se situait à l'est de Paris, en plein milieu d'une forêt. À la suite de ce tragique incendie, tous les fous se seraient enfuis dans la nature et n'auraient jamais été retrouvés. La plupart se seraient réfugiés dans les sous-sols de Paris, dans les catacombes, dans le réseau du métro, et certains seraient encore cachés dans la forêt qui entoure l'ancien hôpital psychiatrique, aujourd'hui en ruine. Autrefois, il était desservi par une station de métro qui a aujourd'hui été condamnée par mesure de sécurité. La forêt où il était, ainsi que le village juste à côté, ont été mis en quarantaine et rayés de la carte, au point que personne n'en connaît l'existence. Toutes ces mesures ont été prises car ces fous sont incontrôlables et très dangereux. Personne ne devrait aller s'aventurer là-bas car ils risqueraient de ne jamais en revenir. Certains des anciens pensionnaires de l'hôpital sont des adorateurs de Satan et rêvent de renverser le pouvoir pour créer leur nouveau monde avec leurs propres règles, tout comme voulaient le faire leurs confrères au Moyen-Âge. Ils se sont réunis et ont fait perpétuer la secte, mais cette fois-ci bien pire que celle qui avait été créée au Moyen-Âge, car cette dernière est beaucoup plus violente et dangereuse. Ils ne veulent pas simplement renverser le pouvoir, ils veulent contrôler le monde, créer une nouvelle religion démoniaque, faire régner la terreur. Ils sont tous fous. Ils sont devenus des criminels et honorent un démon qui s'appelle Yaya. D'ailleurs, son nom est écrit un peu partout dans les sous-sols de Paris, car c'est là-bas qu'ils se réunissent la nuit pour faire leur cérémonie de sacrifice. Ils sont responsables de centaines de kidnappings d'enfants qu'ils sacrifient au nom de leur démon pour avoir plus de force et de pouvoir. Dans la vie de tous les jours, ils occupent tous des postes importants dans de grandes entreprises et certains font carrière en politique. Ils se sont créés un véritable réseau d'influence qui leur permet d'occuper les plus hautes fonctions du pays. Ils utilisent leur influence pour rassembler toujours plus de partisans. Ils veulent devenir encore plus puissants pour un jour réussir à renverser le pouvoir et dominer le monde. Aujourd'hui, la secte est devenue très grande et influente. Elle rayonne dans toute l'Europe. Il se dit même qu'elle dirige notre continent dans le plus grand des secrets en ayant infiltré les plus hautes instances. Je ne sais pas vous, mais cette histoire me fait froid dans le dos. Au fur et à mesure de mes recherches, je commence à avoir peur de ce que je vais découvrir. Depuis, je ne suis jamais retourné faire des explorations urbaines dans les sous-sols de Paris. J'ai peur de me retrouver nez à nez avec eux et de me faire enlever ou même tuer. Mais pourtant, je meurs d'envie d'y retourner car je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Ma prochaine aventure sera dans les catacombes de Paris. J'ai entendu plein de choses là-bas. Certains auraient vu des rituels s'y produire et des personnes qui y sont allées n'en sont jamais revenues. Il y a plein de choses mystérieuses à découvrir. Je suis certain que cette secte a encore plein de secrets à révéler. Je vais continuer d'enquêter et je vous raconterai tout dans un prochain épisode. Je vais en découvrir plus sur l'histoire de leur démon Yaya. Je vais en découvrir plus sur les conditions de leur évasion de l'hôpital psychiatrique. Je vais également en savoir plus sur le mystère de cette ville fantôme qui est aujourd'hui rayée de la carte et dont personne ne connaît l'existence. En attendant, faites attention à vous. Si cette histoire vous a donné envie d'aller vous balader dans les sous-sols de Paris pour voir de vous-même, faites attention à ce que vous pouvez y trouver. Si vous voyez écrit sur les murs des prénoms d'enfants ou le nom du démon Yaya, faites vite demi-tour. N'y allez pas. C'est le signe que la secte est passée par ici et qu'elle y reviendra sûrement. Attention, une planche de Ouija n'est pas un jeu. Quand vous appelez un esprit, vous appelez tous les esprits et vous ne savez pas qui peut vous répondre. La planche de Ouija doit être utilisée avec précaution. Comme vous le savez, j'ai un attrait particulier pour l'univers du paranormal. Tout d'abord, je baigne dedans depuis tout petit, comme je vous l'ai raconté dans les précédents épisodes. J'ai déjà vécu beaucoup d'expériences troublantes. De plus, ma mère pratique la sorcellerie, j'ai donc été souvent témoin de manifestations très étranges. Pour moi, le monde du paranormal et des esprits n'est pas un monde à part. C'est une réalité que j'ai acceptée et qui ne me fait plus peur.
j'ai appris à vivre avec l'idée qu'un autre monde existe, que nous ne sommes pas seuls, et que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Nous n'avons tout simplement pas encore développé les compétences pour communiquer avec cet univers parallèle. Depuis quelque temps, j'ai une planche de Ouija à la maison, bien que ma mère m'a toujours déconseillé d'en avoir une. Il n'est en effet pas recommandé d'utiliser ce genre d'accessoire, car il y a un risque d'attirer des entités indésirables. Pratiquer le Ouija en étant novice peut avoir des conséquences dramatiques pour tout le reste de votre vie et celle de votre entourage. Malgré cet avertissement, je n'ai pas pu m'empêcher d'en acheter une. Au début, c'était simplement décoratif. Je l'avais laissée sur la table du salon et elle servait de plateau. Puis un soir, avec des amis, nous avons voulu essayer de s'en servir. Sans vraiment savoir ce que l'on faisait, nous nous sommes assis en cercle autour de la table du salon. Nous avons éteint toutes les lumières et nous avons commencé à invoquer les esprits. Nous étions tous novices avec le Ouija. Nous ne savions pas ce que nous faisions. Et si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Mes amis ne le prenaient pas au sérieux, alors que moi si. Je savais très bien qu'il y avait un risque à ce genre de pratique et que ce n'était pas recommandé. Malgré mes avertissements, mes amis avaient très envie de le faire, donc nous l'avons fait. Nous avons à plusieurs reprises invoqué les esprits, récité des incantations, mais aucun résultat. Absolument rien, aucune manifestation. Mes amis étaient déçus. Je ne vous cache pas que j'étais rassuré. Je m'étais dit que ça n'avait pas marché et que c'était peut-être des foutaises. Nous en sommes restés là, j'ai rangé la planche dans un placard et je ne m'en suis plus jamais servi. Quelques semaines plus tard, en faisant du ménage, je m'aperçois que la planche a disparu. Elle n'est plus rangée dans le placard là où je l'avais mise la dernière fois. Comme vous le savez, je vis seul et il est impossible que quelqu'un d'autre l'ait déplacée. Intrigué, je me mets à la chercher partout, mais sans succès. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai eu un choc. En me réveillant le matin, j'aperçois la planche posée sur la table du salon. C'est tout simplement impossible. Ce n'est pas moi qui l'ai déplacée et j'étais seul à la maison. La planche disparaît pendant plusieurs jours et réapparaît miraculeusement sur la table du salon. C'est avec ce genre d'expérience que vous êtes obligé de croire en l'existence d'un monde parallèle. J'étais d'abord désemparé, bien qu'habitué à ce genre de manifestation. Ce que j'ai redouté, c'est l'éventuelle présence d'un esprit démoniaque. Car lors de la séance de Ouija que nous avons faite avec mes amis, je ne sais pas qui on a pu appeler et qui a bien pu se manifester. C'est ça qui m'inquiète. Qui peut bien être là? Qui a bien pu déplacer la planche? Quelle entité a bien pu répondre à notre appel? Ce n'était que le début. Après avoir de nouveau rangé la planche dans un placard, le lendemain, elle disparaît de nouveau et réapparaît cette fois-ci dans la cuisine. Quelques jours plus tard, elle apparaît sur le lit le matin au réveil. C'était assez troublant et ça ressemblait à une vieille blague. Mais pourtant, ça n'en était pas une. C'était bien la réalité. Il y a forcément une signification derrière cette manifestation étrange. Mais laquelle? J'ai alors pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'utiliser la planche pour obtenir des réponses à mes questions. Après tout, nous avons commencé le travail. Il faut maintenant le terminer. Peut-être que je vais savoir quelle entité nous avons ramenée dans notre monde et comment la faire partir. Un soir où j'étais seul à la maison, je me suis mis dans le noir total. J'ai allumé quelques bougies et installé la planche de Ouija sur la table. J'avais auparavant regardé des vidéos pour savoir comment l'utiliser. J'ai donc récité quelques formules, mais aucun résultat. Personne ne répond. Personne ne se manifeste. J'insiste, je continue pendant des heures. Je ne vois pas le temps passer. Quand soudain, un livre tombe de la bibliothèque. Bien évidemment, je sursaute, mais je suis content d'avoir une manifestation. C'est peut-être le hasard, ou bien alors une réponse à mon appel. Je me lève pour ramasser le livre, et en le prenant, une sueur froide me traverse tout le corps. Il s'agit du livre de démonologie que j'ai mystérieusement reçu chez moi il y a quelques semaines. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans le premier épisode de la saison 2. Est-ce un signe? Est-ce que ça signifie qu'il y a une présence démoniaque ici? Je ne pense pas que ça soit le hasard. Ce n'est pas possible. Curieux et en recherche de réponses, je récupère le livre et m'assois dans le canapé avec. Je passe toute la nuit à le regarder, en large et en travers. Je regarde toutes les pages les unes après les autres avec une grande attention. C'est une succession de démons, d'incantations démoniaques, de rituels de magie noire. C'est assez troublant et terrifiant. Mais à qui ce livre peut-il bien être destiné? et pourquoi je l'ai reçu chez moi il y a quelques semaines. Mais encore, pourquoi est-il tombé au moment où je me servais de la planche de Ouija ? Plein de questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse. Enfin, pas pour longtemps.
Je m'appelle... J'ai 65 ans. J'ai toujours eu un pied dans la politique. À 25 ans déjà, je travaillais au conseil régional et je m'occupais également de nombreuses associations caritatives. J'avais beaucoup d'ambition dans la vie. Je voulais devenir un homme riche et puissant. Je pensais que la politique m'apporterait tout cela. Les années se sont écoulées, j'ai gravi les échelons petit à petit pour occuper des postes toujours plus importants. J'étais souvent amené à faire des déplacements partout en France, durant lesquels je faisais des interventions et de nombreuses conférences. C'est d'ailleurs pendant l'une d'entre elles que ma vie a changé du jour au lendemain. J'avais 30 ans. J'étais en déplacement à Paris pour donner une conférence sur l'évolution des droits de l'homme en Europe occidentale. C'était dans un grand amphithéâtre. Nous étions plusieurs centaines de personnes ce jour-là. Tout s'était très bien passé. Il faut dire que j'avais l'habitude de ce genre d'événement. À la fin de la conférence, nous étions tous conviés à un buffet dans une petite salle juste à côté. C'était l'occasion d'échanger nos idées, de faire des rencontres et de bien enrichir son carnet d'adresses. C'était un exercice que j'aimais beaucoup et sans vouloir me vanter, j'étais plutôt doué. Au fil du temps, j'avais réussi à me constituer de très bonnes relations et un excellent réseau. Ce jour-là, trois hommes habillés en costume noir, très élégants, se sont approchés de moi. Ils ne ressemblaient pas aux autres. Ils semblaient venir d'un autre monde. Très gentils et courtois, ils m'ont remercié pour la conférence et m'ont dit qu'ils étaient très impressionnés par mon éloquence. Je ne les connaissais pas, mais ils semblaient bien me connaître. Mon parcours professionnel et politique. Ils savaient tout de moi. C'était très flatteur, mais assez étrange. Nous avons discuté pendant une dizaine de minutes, puis ils ont commencé à me dire que ma place n'est pas ici, que je mériterais d'évoluer dans un environnement beaucoup plus prestigieux. Ça ressemblait à une proposition d'embauche. Pour qui ou pourquoi, ça je ne le savais pas encore. Ils ont pris mes coordonnées et sont partis. Une semaine plus tard, alors que j'étais toujours en déplacement à Paris, ils m'ont donné un rendez-vous dans un restaurant du 16e arrondissement, dont je ne me souviens plus du nom, veuillez m'en excuser. À l'époque, je n'étais pas très méfiant. J'avais tellement envie d'évoluer dans la vie que j'étais prêt à tout pour y arriver. J'arrive donc sur le lieu du rendez-vous et je me retrouve dans une rue complètement déserte, sans aucune trace d'un restaurant. Je pensais m'être trompé d'adresse. Mais c'est à ce moment-là que je reçois un coup de téléphone. C'était l'un des trois hommes. Il me demande où je suis, je lui réponds que je suis arrivé au lieu de rendez-vous, mais je pense m'être trompé d'adresse. C'est alors qu'une porte s'ouvre et je reconnais cet homme que j'avais rencontré une semaine plus tôt. Je le suis et rentre à l'intérieur. Il referme la porte à clé, nous nous retrouvons dans un hall d'entrée plutôt prestigieux. Je ne me pose pas de questions, je n'en ai pas le temps. Nous arrivons dans un grand bureau de ministre. Il n'y avait que lui et moi. Les deux autres hommes qui étaient présents avec lui l'autre soir n'étaient pas là. Je ne les ai d'ailleurs jamais revus. On parle pendant environ 20 minutes, de philosophie, de politique, de tout ce que je fais dans la vie et de nos centres d'intérêt. Au fil de la conversation, il commence à me parler d'une association de personnes qui se réunissent une fois par mois pour échanger des idées politiques et philosophiques. Sans m'en dire plus, il me demande si ça m'intéresserait de les rejoindre pour faire partie de leur groupe. J'étais jeune, j'avais beaucoup d'ambition, et sachant que ça ne me coûterait rien, j'ai accepté la proposition sans trop savoir dans quoi je m'étais engagé. J'ai dû leur envoyer mon CV et rédiger une lettre de motivation avant de pouvoir être accepté à rejoindre leur groupe. C'était une procédure très étrange. Je commençais à me rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple petit groupe de discussion, mais d'une entité bien plus importante. Quelques semaines plus tard, je suis invité à participer à la première réunion. Une fois arrivé sur place, toujours au même endroit, je me retrouve dans le fameux bureau avec une personne différente de la dernière fois. C'était un homme d'une cinquantaine d'années. Il commence à me poser des questions assez personnelles et à me demander des choses étranges. Il m'explique que pour valider définitivement ma candidature dans leur assemblée, je dois passer un test ultime. Ils doivent me bander les yeux et pendant une trentaine de minutes, ils vont me faire vivre des expériences qui, selon ses propos, vont me faire passer de l'ombre à la lumière. Je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il me racontait, mais je n'avais pas été jusqu'ici pour renoncer maintenant. Il m'a donc bandé les yeux et m'a dirigé dans une autre pièce que je ne peux pas vous décrire car je ne voyais plus rien. L'expérience a duré une trentaine de minutes. Il ne s'est rien passé de particulier en soi. J'étais assis sur une chaise, je sentais des frottements sur ma peau comme si on me chatouillait avec une plume. J'entendais des bruits bizarres d'enfants qui pleurent ou de femmes qui hurlent. Les 30 minutes écoulées, on me redirige à l'extérieur de la pièce et on me débande les yeux. Je me retrouve en face de cet homme de 50 ans dont je ne connais toujours pas le prénom. Il me félicite et me souhaite la bienvenue dans leur assemblée. Un mois plus tard, on m'appelle pour me dire qu'une nouvelle réunion va se tenir avec l'assemblée. Ce sera mon baptême. Je retourne dans ce fameux hôtel particulier à Paris où se tiennent toutes les réunions. On m'invite à entrer dans une grande salle qu'ils appellent le temple. Je découvre alors, avec stupéfaction, une vingtaine de personnes habillées d'une longue cape noire, le visage complètement masqué. Ils étaient répartis de manière équitable sur la gauche et la droite de la pièce. J'étais tout au bout avec en face de moi ce fameux homme de 50 ans que j'ai déjà vu deux fois. La cérémonie commence, il me présente aux autres et il me souhaite tous la bienvenue. Pendant environ une heure, il m'explique le rôle et le but de ce comité. Selon lui, l'objectif est de se développer personnellement et professionnellement. Nous sommes tous des frères et nous devons nous entraider. Une fois que l'on a rejoint cette assemblée, on ne peut plus en sortir. C'est définitif. La confiance doit être très importante les uns envers les autres, et la trahison pourrait conduire à la mort. Il explique également qu'il connaît beaucoup de secrets sur moi ainsi que sur tous les autres membres et qu'il n'hésitera pas à s'en servir pour me détruire si jamais je cherche à quitter l'assemblée ou à divulguer certains secrets. Une fois que tous les autres membres auront retiré leur masque et que j'aurai vu leur visage, je ne pourrai plus revenir en arrière. Je serai définitivement membre de ce qu'ils appellent la révolte. Un par un, ils enlèvent tous leurs masques. Je découvre alors qu'il y a autour de moi beaucoup d'hommes politiques connus, des hommes d'affaires, ainsi que des journalistes célèbres. J'étais très impressionné, mais bien évidemment, je ne dis pas un mot. Je ressentais une grande satisfaction. J'avais l'impression que je venais d'entrer dans un cercle très privé et prestigieux. Sans le savoir encore, je venais d'entrer dans l'une des plus grandes sociétés secrètes du monde, plus connue sous le nom de la secte du diable. Ils étaient tous très gentils avec moi. C'était assez intimidant d'ailleurs, mais je me suis senti très vite à l'aise avec eux. J'avais l'impression d'avoir une deuxième famille. Au fil des années, j'ai découvert la véritable identité obscure de cette secte. Elle est présente partout dans le monde, dans chaque grande capitale. Elle regroupe les hommes et les femmes les plus influents de la planète. Nous avons une véritable influence sur la société. Les décisions politiques, économiques, nous contrôlons absolument tout ce qu'il se passe dans le monde. Notre existence est tenue secrète. Nous avons tous fait preuve de fidélité et de confidentialité les uns envers les autres. D'ailleurs, je prends des risques à vous en parler. Si un jour je suis démasqué, je me ferai tout simplement tuer. Toute ma vie a changé. Je suis maintenant un homme riche et j'occupe une place politique très importante en France. Je vais bien sûr ne pas vous en dire plus pour ne pas me mettre en danger. L'avenir me fait très peur. Si vous saviez tout ce qu'il se prépare, vous seriez terrorisé. D'ailleurs, la situation que l'on vit actuellement n'est pas le fruit du hasard. Beaucoup de choses effrayantes se préparent.
Comme vous le savez, je suis passionné d'urbex. J'ai déjà visité plein d'endroits insolites comme j'ai pu vous le raconter dans les précédents épisodes. Mais il y a quelque chose que je rêve de faire, c'est de visiter un hôpital abandonné. Je sais, je suis fou, mais j'ai vu beaucoup de vidéos sur internet et ça m'a toujours fait fantasmer. J'ai justement eu l'occasion de le faire, mais mon rêve est vite devenu mon pire cauchemar. Je vais vous raconter ce qu'il s'est réellement passé lors de ma visite dans ce que l'on appelle la clinique du diable. Il est 21h. Il fait nuit, je suis seul. Pas un bruit, juste celui du craquement des arbres à cause du vent. Car oui, je suis en plein milieu d'une forêt. Comment je me suis retrouvé ici? Vous vous souvenez? Je viens tout juste de m'enfuir des catacombes interdites après avoir vu un rituel satanique s'y produire sous mes yeux. Cette forêt, à l'ouest de Paris, n'est connue de personne. Elle n'apparaît sur aucune carte ni aucun plan. Nul n'en connaît l'existence. Je dois partir d'ici. Je me suis retrouvé là par accident en m'échappant des catacombes. Je dois maintenant rentrer chez moi. Mais comment faire? Il n'y a que des arbres à perte de vue. Mais attendez, je vois un grand bâtiment au loin. On dirait qu'il y a de la lumière. Je vais aller voir. Je commence à marcher quand soudain j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne, il n'y avait personne. Pourtant, j'entends des bruits de pas qui se dirigent vers moi lentement. Au loin, dans l'obscurité de la forêt, j'aperçois des yeux jaunes brillants. Ils me regardent, ils me fixent. J'ai le cœur qui se met à s'emballer. Je panique. C'est peut-être un animal, je sais pas. Dans le doute et la peur, je prends la fuite et je me mets à courir loin de cette chose. Quelques centaines de mètres plus loin, cette créature aux yeux jaunes semble avoir disparu. Je peux enfin souffler. Je me retrouve devant le grand bâtiment. Il est immense et fait au moins 5 étages de haut. Il semble abandonné et en mauvais état. Il y a des tags sur les murs, des fenêtres manquantes, mais de la lumière derrière une fenêtre tout en haut à droite attire mon attention. Il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur. J'hésite un instant avant de m'y aventurer, mais de toute façon je n'ai pas le choix. Je suis seul, perdu au milieu d'une forêt. Il faut que je trouve de l'aide. J'avance en direction d'une porte. Juste à côté, il y a une plaque collée au mur où il est écrit « Hôpital psychiatrique du Grand Ouest ». Au même moment, j'entends une femme crier très fort. Ça semble venir du milieu de la forêt derrière moi. Je ne vois rien, il fait complètement nuit. J'entre à l'intérieur sans plus attendre. Je me retrouve dans un grand hall d'entrée, immense, mais complètement délabré. Les murs en béton sont tout effrités et tagués. Mes pas résonnent sur le sol. Avec la lumière de ma lampe torche, j'aperçois aux quatre coins de la pièce de longs couloirs avec des flèches rouges indiquant des directions. C'est très curieux. On se croirait dans un jeu. Je suis confus. Je ne sais pas où aller. Je décide de me diriger là où j'ai vu de la lumière, sur la droite. Je traverse un long couloir étroit. C'est un ancien hôpital psychiatrique. Il y a donc des chambres de chaque côté. Et avec le vent, les portes grincent et claquent toutes seules. C'est assez angoissant. Je reste méfiant. Je ne sais pas sur qui je peux tomber. Je marche lentement et prudemment, ma lampe torche dirigée loin devant. Il y a de la poussière, des débris partout et des trous dans certains murs. Comme s'il y avait eu une explosion ou je ne sais quoi. Toujours ces flèches rouges semblant indiquer une direction avec des messages bizarres. Au bout du couloir, il y a un grand escalier en bois, avec certaines marches manquantes, d'autres moisies. J'ai peur de monter là-dessus. Je ne voudrais pas me tuer, mais il le faut. C'est tout là-haut que j'ai vu de la lumière. Il faut que j'y aille. Je monte quelques marches. Le bois craque sous mes pas mais résiste. Je suis prudent. Sur les murs, il y a des écritures bizarres. Il est écrit « Chemin de la mort » ou bien encore « Le diable t'attend » en grandes lettres rouges. J'essaye de ne pas faire attention à tout cela, même si au fond de moi je suis terrifié. Je continue mon chemin et arrive au 5e étage. Au bout du couloir, il y a une porte entrouverte laissant entrevoir de la lumière. Prudemment, je me dirige vers la porte. Je crie « Il y a quelqu'un ?» mais personne ne me répond. Je vois pourtant des ombres passer derrière. Je ne suis pas seul, c'est certain. J'ai le cœur qui bat de plus en plus vite. Mais qui peut bien être en plein milieu d'un hôpital abandonné en pleine nuit ? Je commence à regretter d'être ici. Mais je suis là, alors autant aller jusqu'au bout. Soudain, j'entends à nouveau cette femme crier en plein milieu de la forêt. Je regarde par une fenêtre sur ma droite à l'extérieur, mais je ne vois rien. Tout à coup, la porte du bout du couloir se ferme brusquement. La lumière s'éteint. Je sursaute. Visiblement, on ne veut pas de moi ici. Je ne suis pas le bienvenu. Avez-vous déjà connu cet état quand vous êtes tellement stressé que vous en perdez la raison ? C'est exactement ce qu'il s'est passé à partir de ce moment. En courant, je vais vers la porte où il est écrit « La morgue » en lettres rouges. Il n'y avait personne. Juste une grande chambre dans le noir total avec en plein milieu un vieux lit d'hôpital vide. Sur les murs, plein de dessins étranges. Des symboles que je ne comprends pas, mais qui ne signifient rien de bon. Je me retourne. « Yaya est ici » est écrit en grandes lettres dégoulinantes. Ça ressemble à du sang. Et c'est tout frais. Ça vient d'être fait. Au bout du couloir, la silhouette que j'avais vue dans la forêt tout à l'heure, elle est là. Elle se dirige vers moi, avec ses yeux jaunes brillants transperçant l'obscurité. Je suis tétanisé. Elle s'approche de plus en plus vers moi, seconde après seconde. Dans ma tête, tout se mélange. Je ne sais plus où je suis ni qui je suis. Je suis au bord de la crise cardiaque et d'un coup, tout s'éteint. Je rouvre les yeux. Il fait grand soleil. Je suis assis par terre à l'extérieur devant l'hôpital. J'ai un peu la nausée. Je me sens tout bizarre. Ma montre indique 8 heures du matin. Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive et je mets un moment à me souvenir où je suis, comme si j'avais une amnésie. Soudain, un groupe de 4 personnes sortent de nulle part et viennent me voir. Ils me demandent si je vais bien, et ils m'expliquent ce qu'il s'est passé. Ils faisaient aussi de l'urbex, comme moi, et m'auraient entendu crier à l'aide. Ils sont alors venus me chercher et ils m'ont trouvé allongé au sol, dans une chambre au 5e étage, inanimée. Il semble que j'ai fait un malaise. Ils m'ont donné une couverture pour que je me repose en attendant de me réveiller. Peu à peu, je reprends mes esprits. Ils me mettent en garde que je ne devrais pas venir ici seul, que c'est très dangereux. qu'il y a déjà eu plusieurs enlèvements et crimes commis ici, dans la forêt. Ils sont venus en voiture par un petit chemin secret. Ils me proposent de me ramener chez moi. Je monte avec eux. Sur la route, ils me racontent l'histoire de cet hôpital si étrange. Ce serait un ancien hôpital psychiatrique datant de l'après-guerre et qui abritait les fous les plus dangereux d'Europe. Il y a 20 ans, il y aurait eu un grave incendie qui aurait détruit l'hôpital et tous les pensionnaires se seraient enfuis et n'auraient jamais été retrouvés. Ils se racontent que certains se cachent encore ici, dans la forêt et dans le village voisin, qui est lui aussi abandonné et tombé en ruine. Avant, il y avait une station de métro qui conduisait à l'hôpital, mais elle fut condamnée elle aussi. Plus sombre encore, selon la légende, l'hôpital était très mal réputé. Il y avait beaucoup de rumeurs sur des faits de satanisme et autres phénomènes étranges. Les lieux seraient hantés et les malades qui étaient internés ici n'en ressortaient jamais. Ils devenaient encore plus fous. L'hôpital est surnommé la clinique du diable. Un démon nommé Yaya aurait pris possession des lieux depuis plus d'un siècle. Il torturait les âmes de ses modestes pensionnaires pour en faire des adeptes prêts à faire n'importe quoi pour le servir. Il les aurait réunis dans une secte qui s'appelle la Révolte, qui a pour seul but de contrôler et détruire le monde. Il les aurait poussés à mettre le feu à l'hôpital pour qu'ils puissent tous s'enfuir, et ainsi mettre en exécution son plan diabolique. De nos jours, on ne trouve que très peu d'informations à ce sujet, voire pas du tout. Pourtant, à l'époque, il y avait plein de preuves. On dirait que tout a été effacé. Mais par qui? Et pourquoi? C'est très étrange. Il se raconte que cette secte existerait toujours, que ses membres se cacheraient dans les lieux secrets comme les catacombes interdites. Je vous le raconte dans l'épisode La Secte. Tout ce qu'il me raconte me fascine et me donne beaucoup de réponses pour mes recherches sur cette secte. Une heure de route plus tard, et bientôt arrivé chez moi, je les remercie de m'avoir accompagné. Juste avant de descendre de la voiture, je leur dis que je suis allé explorer les catacombes interdites et que j'ai vu des choses très bizarres là-bas, qu'il y a peut-être des preuves de l'existence de cette secte. Ils me répondent que eux aussi, ils sont allés là-bas, qu'ils ont vu un temple satanique et qu'après avoir vu un homme se cacher derrière un rocher, ils se sont enfuis. À ce moment, une sueur froide me traverse le corps. Je ne dis rien, descends de la voiture et rentre chez moi. Rien ne vous semble étrange? Vous vous souvenez de mon aventure dans les catacombes que je vous avais racontée? Quand je me suis retrouvé dans le temple satanique, j'ai vu des hommes de la secte arriver et je me suis caché derrière un rocher. Et si c'était eux? S'ils faisaient partie de cette secte? S'ils savaient que c'était moi ce soir-là, ils m'auraient sans doute tué. Comme vous le savez, cela fait maintenant plusieurs années que j'enquête sur la mystérieuse secte du diable que j'avais découverte lors d'une exploration urbaine dans les catacombes interdites de Paris. Vous pensiez que c'était fini? Vous pensiez qu'il n'y avait plus rien à découvrir à propos de cette secte? Eh bien, détrompez-vous, ce n'était que le début. Au cours de ces derniers mois, j'ai enquêté sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, mais dont on n'entend pas parler dans les médias. Et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une nouvelle enquête terrifiante et mystérieuse. Alors j'ai besoin de votre soutien. Donnez-moi de la force en vous abonnant au podcast et en le partageant au maximum. Disneyland, ça vous dit quelque chose? Princesse, conte de fées, expérience magique, voilà ce à quoi nous pensons quand l'on parle de Disneyland. Mais au-delà des apparences, savez-vous qu'il se passe des choses très étranges là-bas? Je parle du parc qui se situe en Californie. Il s'agit du premier parc créé par Walt Disney en personne. C'est le parc original et l'un des plus fréquentés au monde. Chaque année, des millions de touristes passent les portes de ce royaume enchanté pour passer une journée magique et s'amuser en famille. Mais il y a des événements très troublants qui s'y passent et que la direction du parc voudrait garder secret. Savez-vous que chaque année, plus de 200 enfants disparaissent et ne sont jamais retrouvés dans le parc Disneyland ? Je ne parle pas là d'enfants qui perdent leurs parents dans la foule et qui les retrouvent ensuite. Non, je parle d'enfants qui disparaissent et qui ne sont jamais retrouvés. 200 enfants par an. C'est énorme. Ce n'est donc pas un cas isolé. Mais alors, pourquoi nous en avons jamais entendu parler dans les médias? Vous allez comprendre que c'est une affaire bien plus grave et inquiétante que vous pouvez imaginer. Tout a commencé avec le témoignage d'une famille que j'ai trouvée sur internet. Elle déclare avoir voulu passer une journée magique au parc Disneyland, mais qui s'est transformée en véritable enfer. Tout se passait bien quand soudain, en plein milieu de l'après-midi, ils perdent l'un de leurs enfants. Dans la foule, pris de panique, ils cherchent pendant plusieurs heures en vain. Ils décident donc de se rendre au bureau des enfants perdus, avec l'espoir de le retrouver assez rapidement. Mais c'est un échec. Encore des années après, leur enfant est toujours porté disparu. La famille déclare avoir reçu une grosse somme d'argent de la part de Disneyland pour ne pas parler de cette affaire dans les médias. C'est donc un témoignage anonyme sur Internet. Est-ce une histoire vraie ou bien fausse? On peut en douter. Jusqu'à ce que l'on trouve plein d'autres témoignages qui racontent exactement la même chose, dans les mêmes circonstances. Quand on cherche bien, il y a beaucoup, beaucoup de familles dans la même situation, ayant perdu un de leurs enfants lors d'une journée dans ce célèbre parc d'attractions. Tous disent avoir reçu un dédommagement et signé un contrat de confidentialité pour ne pas en parler dans les médias. Mais pourquoi une telle pression? Pourquoi Disney ne veut pas que cela se sache? Et surtout, pourquoi ces enfants sont disparus et ne sont jamais retrouvés? Où sont-ils? Et qui se cache derrière tout ça? J'ai donc décidé de mener mon enquête. Il y a quelques youtubeurs américains qui parlent du sujet, mais ils sont peu nombreux. Et les vidéos ne restent pas bien longtemps et se font très vite supprimer. Je me rends compte que c'est un sujet très sensible et très secret. Si la moindre information est autant censurée, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de plus grave qui se cache derrière tout ça. Et ça me donne envie d'en savoir plus, pas vous? J'ai essayé pendant plusieurs semaines de rentrer en contact avec des familles qui déclarent être victimes de ces disparitions étranges. Ça n'a pas été simple car elles témoignent de façon anonyme sur Internet. Mais de fil en aiguille, j'ai quand même réussi à en contacter une. Nous avons discuté par messagerie cryptée pendant plusieurs semaines. J'ai dit que j'étais un Français qui avait un podcast et que j'enquête sur des phénomènes paranormaux et des légendes urbaines, que j'avais pris connaissance de cette affaire et que je voulais en savoir plus. On a tout de suite eu un bon feeling et avons beaucoup parlé de cette histoire. Cette personne m'a dit qu'elle et d'autres victimes faisaient une enquête et qu'elle avait trouvé quelques éléments très troublants. Ils se sont réunis dans une sorte d'association de victimes de ces enlèvements dans le plus grand secret pour pouvoir mener une enquête plus approfondie et réunir des preuves. Selon les informations qu'ils m'ont données, ils auraient découvert des similitudes troublantes dans toutes les disparitions. Le même mode opératoire, le même coin du parc, les mêmes jours et à la même heure. Cela leur a fait penser que c'était donc quelque chose d'organisé, qu'il devait y avoir un réseau derrière tout ça. Et ils ne croyaient pas si bien dire. Ils ont remarqué qu'il y a un homme en particulier qui se rend très souvent sur le parc, pratiquement tous les jours, seul, et qu'il passe son temps à se promener sans faire les attractions ou autres activités. Il a un comportement assez étrange. Ils sont très nombreux à parler de cet homme. Il semblerait qu'il y ait un rapport avec tous ces enlèvements. Ils ont même trouvé des photos de cet homme et me les ont envoyées. En effet, c'est un homme qui paraît étrange. Il est tout d'abord très grand. Je dirais qu'il fait pratiquement 2 mètres de haut. Il est plein de tatouages assez étranges, qui semblent avoir des significations particulières. Il est muni d'une casquette et de lunettes de soleil, et avec des habits noirs, assez discrets. Cet homme aurait donc été vu de très nombreuses fois dans le parc Disneyland, comme s'il était à la recherche de quelque chose. Ils n'ont pas de preuves concrètes que c'est lui qui a enlevé les enfants, mais ils en sont tous persuadés. Mais il y a quelque chose qui fait douter tout le monde. C'est qu'il ne doit pas être seul pour pouvoir faire cela. Car avec le nombre de disparitions qu'il y a, il doit forcément avoir des complices. Certains d'entre eux ont donc décidé d'aller sur place pour espionner et suivre cet homme pour voir ce qu'il faisait. Ce n'était pas chose facile car il semble très méfiant et regarde toujours autour de lui pour voir si quelqu'un le suit. Il semblerait que l'homme passe régulièrement des appels téléphoniques d'une courte durée, de seulement quelques minutes. La personne n'a pas réussi à entendre ce qu'il dit au téléphone, mais il avait l'air assez stressé et très sérieux, comme s'il recevait des ordres de quelqu'un d'autre. Plus étrange encore, le comportement très bizarre de cet homme n'a pas alerté la sécurité de Disneyland. Cela fait des années qu'il se balade dans le parc tous les jours et cela n'a alerté personne. Il a même été vu passer par des portes secrètes pour aller dans des parties du parc, normalement interdites au public. Et c'est là que cette affaire devient encore plus étrange. Selon ce que rapportent toutes les victimes, il semblerait que cet homme ait un lien avec la direction du parc et qu'il y ait tout un réseau associé à ses disparitions. Il n'agirait effectivement pas seul et serait sous les ordres de personnes beaucoup plus influentes, très haut placées. Ce serait pour cela que personne ne l'arrête et qu'il le laisse faire dans le parc, car il serait associé avec la direction du parc. Ce serait tout un réseau organisé qui fonctionne ensemble, avec des complices. Je précise que toutes ces informations me sont rapportées par les victimes. Je n'ai moi-même pas vérifié ces informations. Donc, si on résume, il y aurait un réseau qui enlève des enfants, qui est affilié avec la direction du parc, et qui serait même affilié avec des politiques. Ce serait une véritable affaire d'État, et c'est pour cela que ça ne sort pas dans les médias et que les victimes signent tous des contrats de confidentialité et reçoivent une grosse somme d'argent pour ne pas ébruiter les enlèvements. Et ils vont encore plus loin. Ils disent que ce serait une véritable secte qui serait à la tête de ce réseau. Et c'est là que quelque chose m'a mis la puce à l'oreille. Quand ils ont commencé à parler de secte, de rituels et de sacrifices, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la secte du diable dont j'ai découvert l'existence lors de mes nombreuses explorations urbaines, racontées dans les précédents épisodes. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes entre ces deux histoires, entre mes découvertes et les leurs. Étant donné que la secte du diable est un réseau présent partout dans le monde, il se peut qu'il y ait un rapport avec les disparitions à Disneyland. Je ne croyais pas si bien dire. Au fil de notre conversation, quelques détails m'ont enlevé les doutes que j'avais. Quand ils ont prononcé un nom en particulier, Yaya, ça vous rappelle quelque chose ? C'est ce nom que j'ai retrouvé écrit sur les murs des catacombes de Paris à plusieurs reprises. J'avais déjà enquêté à ce sujet. C'est le démon qui se cache derrière la secte du diable. Je leur ai donc fait écouter mon podcast pour qu'ils découvrent toutes mes histoires et mes découvertes lors de mes enquêtes. On a pu alors mettre toutes nos découvertes en commun et faire un rapport entre ces deux affaires. Il semblerait donc que la secte du diable soit derrière ces enlèvements d'enfants, et qu'elle s'en servirait notamment pour leurs sacrifices sataniques, mais aussi pour des rituels encore plus sombres. Mais ça, j'en parlerai dans un prochain épisode. On se rend alors compte que la secte est présente partout dans le monde, et qu'elle a une influence dans tous les domaines, les médias, la politique, la finance, l'économie. On ne peut pas lui échapper. Elle est présente partout et domine le monde. Cela est très effrayant, vous ne trouvez pas ? J'ai l'impression de dévoiler quelque chose qu'il ne fallait pas dévoiler, de mettre la lumière sur un sujet qui devait rester secret. J'ai déjà reçu des pressions depuis la création de mon podcast. Des épisodes ont été supprimés ou bien censurés. J'ai reçu des messages anonymes sur les réseaux sociaux pour me demander d'arrêter mes enquêtes, que je courais un grave danger. Mais avec la publication de cette nouvelle enquête, j'ai peur de recevoir des menaces encore plus fortes. J'ai vraiment le sentiment de faire des découvertes que je n'aurais jamais dû révéler. Si vous n'avez plus de nouvelles de moi dans les prochaines semaines, vous saurez ce qu'il s'est passé. En attendant, je continue mon enquête. Et je vais vous dévoiler la semaine prochaine de nouvelles découvertes, encore plus troublantes. Voudriez-vous que j'aille sur place à Disneyland en Californie pour enquêter moi-même sur ces étranges disparitions ? Dites-le moi dans les commentaires. Après avoir exploré les catacombes interdites de Paris, la clinique du diable ou bien encore les stations de métro abandonnées, je me sens capable d'aller en Californie explorer ce parc. Ça ne me fait pas peur. De toute façon, au point où j'en suis, je ne peux pas faire marche arrière. Je vais aller jusqu'au bout de mes enquêtes. Alors donnez-moi de la force, soutenez-moi, abonnez-vous au podcast et partagez-le au maximum. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle enquête.